qui est très étrange. Qu'est-ce que c'est ?
Ça, c'est Massive Attack. C'est un titre connu de Massive Attack,
oui,
Karma Coma, des années 90.
Oui, mais je suis arrivé dans les dernières notes.
Oui.
Ça n'est peut-être pas les meilleurs du morceau, et ça je leur dirai à Massive Attack, parce que je dîne avec eux souvent.
Ah oui, c'est là que je... Et à quel resto ?
Il s'est passé des choses hier. Évidemment, ça fait partie des jours et on voit bien de quoi tout le monde va parler ce matin, on voit bien. Et puis on pense à tous ces autres sujets. Qui va parler d'eux ? Qui va parler de ses petits problèmes de santé, ses problèmes de saison, ses moissons ? Qui va parler de ses petits problèmes de société, ses inventions ? Qui va parler de petites choses qui se sont passées, des je ne sais quoi, des petits riens, des pas du tout, qui va parler des pages 15, des équipes de seconde division, qui va parler des petits sujets locaux, de l'amicale des pompiers, qui va parler de l'aïoli à la maison de retraite, qui va parler de la fermeture d'une deuxième classe de maternelle dans ce village de la Beauce, qui va parler de tout ça ? Eh bien nous. Nous avons décidé de prendre aujourd'hui à bras-le-corps ces sujets que vous n'entendrez pas ailleurs. Ce n'est pas qu'ils soient spécialement intéressants en toi, mais qui montrent la diversité extrême de la vie qui continue sous toutes ses formes au milieu du bétume, du bitume, du béton. Ça pousse, ça continue, il va falloir arroser un petit peu ça.
Ah, même, vous avez... Oui.
Alors en attendant, il y a quand même le journal de Thierry Parel, lui va en parler.
Radio Nova.
Non, ceci dit, on peut prendre aussi un chemin de traverse, et y compris en ouverture de ce journal de 7h.
Oh là, bonjour à tous,
c'est possible.
Bonjour Titi.
Bonjour les amis. Quel est l'animal qui, par exemple, a tué le plus d'hommes en 2015? On ne parle pas de 2016, on n'a pas encore les chiffres de 2017
sais,
dedans.
Je le sais, parce que c'est les moustiques, c'est le
moustiques,
leader sidérique en Sénat sur les moustiques.
Exactement, tout à fait. 830 000 personnes sont mortes à cause des moustiques qui se transmettent des maladies, évidemment. On pense à Zika, la dengue, la fièvre jaune et surtout la malaria et le paludisme. Alors le deuxième animal.
L'hippopotame, je sais.
Non, c'est l'homme lui-même.
L'homme est un animal.
L'homme est un animal.
Vous avez
pour l'homme.
Vu le débat hier soir.
L'homme est un loup pour l'homme. Oui.
Ensuite, on trouve le serpent. Et puis, il y a quand même un chiffre étonnant, c'est le chien qui a tué 17 400 hommes cette année-là,
mais
donc
lequel,
en 2015.
Y a quel chien?
Alors, les chiens les plus violents.
Mais hier, vous avez dit.
Alors, ce n'est pas le chien, c'est le maître qui l'est. Oui. Vous avez lu mon livre.
Oui, mais hier, vous avez dit qu'hier, un lapin a tué
un chasseur. Oui, mais.
Vous avez dit que c'était un lapin qui.
Avait un fusil, voilà.
Et les requins n'en ont tué que 6. Voilà. Emmanuel Macron donné large vainqueur hier soir à l'issue d'un débat d'entre-deux tours houleux avec Marine Le Pen, médiocre quand même. Selon un sondage, et là pour BFM TV, qui transmettait ce débat, 63% des téléspectateurs ont jugé l'ancien ministre de l'économie plus convaincant que son adversaire du FN. À gauche de la gauche, 66% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont également jugé Emmanuel Macron plus convaincant. Le face-à-face entre les deux candidats aura souvent viré au combat de chiffonnier, tour à tour goguenarde, agressif, dédaigneuse. Marine Le Pen a pilonné d'entrée de jeu Emmanuel Macron, le renvoyant à son statut d'ancien ministre de François Hollande. Ce dernier s'est attaché, parfois avec difficulté, à conserver un ton posé, didactique, tout en conseillant à Marine Le Pen de revoir ses fiches. On l'a vu cette semaine, le monde de la culture est monté au front, c'est le cas de le dire, pour appeler à voter contre Marine Le Pen. C'était de nouveau le cas hier soir avec un concert Place de la République, lieu hautement symbolique s'il en est. Un concert organisé par l'Union des étudiants juifs de France, la FAGE, SOS Racisme également. Dans un communiqué commun, les trois organisations réaffirment leur attachement aux valeurs républicaines et à faire barrage à l'extrême droite. On l'a déjà évoqué en début de semaine, les Algériens sont appelés aux urnes cette semaine, aujourd'hui même, ce jeudi, pour des élections législatives qui ne semblent pas les avoir beaucoup emballées. On va évidemment laisser les Algériens s'exprimer dans les urnes, mais les études d'opinion tablent d'ores et déjà sur un faible taux de participation, au grand dam d'ailleurs du régime d'Abdelaziz Bouteflika, qui compte sur ce scrutin pour renforcer sa légitimité.
Vous ne l'aviez pas employé au grand dam depuis le début
non,
de l'année,
ça fait
mais on ne l'avait pas entendu.
Non, c'est la première fois,
je suis content,
je crois.
Ça me fait plaisir. Vous avez attendu avril, vous voyez. Et puis,
tout à coup,
c'est joli.
J'ai tenu,
au mois de mai,
puis, donné,
début mai, il y a mon Thierry Parel qui est là, qui est pourtant riche en vocabulaire, il est fleuri dans ses mots. Et bien, il nous sort ça fait plaisir. Le grand dame, je vais le mettre dans une petite boîte.
Oui. Hein, et l'on sortira.
Et on va le ressortir.
Il est très guibéard, ce grand dame. Il est très guibéard.
Menova.
Barack Obama a dévoilé le design de sa future bibliothèque présidentielle. Elle va être construite à Chicago, sur le Jackson Park. C'est un square créé à l'occasion de l'exposition universelle de 1893 et qui est ouvert sur le lac Michigan. Ce projet ultra moderne devrait coûter au moins $500 million. En fait, la construction d'une bibliothèque est devenue une tradition pour les anciens présidents américains.
Ça sort de la poche à qui?
De la poche du con.
Puis du con, il en a marre.
Ouais.
Parce que vous me rajoutez à ça que je peux plus conduire à 120 dans les rues de Paris. Vous rajoutez qu'ils m'ont foutu l'alcotest maintenant. Alors si je bois un coup avec des copains, je ne peux plus prendre ma voiture. Et ils vont me construire une bibliothèque avec mes impôts, cailloux, quoi ou caisse.
Alors, on va s'étonner qu'on pense qu'on mange et qu'on fasse.
Moi, je te paye un coup.
Les dauphins et les orques vont finalement voir leurs conditions de captivité améliorées. Après 20 mois de discussion, un arrêté visant, je cite, à garantir le bien-être des animaux dans les parcs aquatiques a été validé par la ministre de l'Environnement, donc Ségolène Royal. C'est un texte qui abroge une législation devenue obsolète datant de 1981.
Quoi ? Ils vont me foutre des poisons dans les des aquariums avec de l'eau qui vont aller chercher au Qatar, peut-être même au Qatar, en Arabie Saoudite, qui sont les ennemis de la France. Et là, ils foutent de l'eau avec des...
On ferme.
Attends, mais Maurice, ferme le rideau de fer, on finit entre nous.
Deux derniers mots de football. D'abord, Monaco a perdu hier soir à domicile face à la Juve, la Juventus de Turin, 2-0. Match aller des demi-finales de la Ligue des champions de football. Et puis ça s'est pas mieux passé pour Lyon. D'ailleurs, ça a même été pire. Parce que Lyon se déplaçait sur le terrain de l'Ajax d'Amsterdam et Lyon a perdu 4-1. C'était de l'Europa League cette fois. Et toujours demi-finale aller de la compétition.
Ça valait bien la peine d'y aller. Pour aller se prendre 4 buts dans la gueule, t'as des mecs qui sont là, ils font leur petit sac, ils sont là, hey, on va prendre le train, coach, allez, ouais, vous avez des billets de première, ouais, on est en première, arrivé là-bas, le bus climatisé, allez, ouais, à boire, à manger, du sport, des entraînements en 4. Allez, 4 dans la gueule, peut-être pas la peine de...
C'est la mienne, je remets la mienne. Ouais,
Comment, Maurice ?
Je remets ma tournée,
oui,
d'accord.
Le dernier verre, mais je rentre.
Dernier verre,
que j'ai dit à ma femme avant minuit. D'accord. Il est quelle heure ? Ah oui, quand même, 7h07.
7h, 9h, plus près de toi.
Parce que hier, donc, à un moment, je m'étais couché trop tôt, donc je me suis réveillé pour dîner, tard, si vous voulez. J'étais dans le frigo, puis j'ai regardé, il n'y avait pas grand.
Bonjour, 7h13, nous allons voir si on a tous vécu la même soirée hier et si on a retenu les mêmes choses, grâce au club des connoisseurs, bien sûr. Qui mieux que c'est essorer l'actualité pour en sortir une sorte de liquide concentré d'émotion et d'intelligence avec aujourd'hui Marie Missé.
Oui, bonjour Edouard.
Marie Missé, vous avez avec vous plus de 200 journaux hebdomadaires, mensuels, quotidiens, fanzines, même des journaux écrits à la main par vous. On va écouter ce que vous en avez tiré. Tito qui est de retour. Ouais. Après 2 jours chez lui au lac d'Ourthe, vous vous êtes ressourcé. Tito, vous avez la télévision là-bas ?
J'ai pas la télévision.
Voilà, donc vous nous direz ce que vous n'avez pas vu hier soir.
Exact.
Atmen Khelif, veste bleue aujourd'hui. Fleur à la boutonnière. Je vous sens très.
Très content.
Très, très relevé. Armel et Eugénie, bien sûr, vous intervenez quand vous voulez en faisant des grands signes de la main. Quelle est pour vous l'actualité marquante aujourd'hui, ce matin, Atmen ?
Eh bien, l'actualité marquante, c'est ce sport que l'on pratique en Finlande et dans les pays scandinaves, qui est le hobby horsing.
C'est l'actualité, c'est ce que vous...
Ah, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Oui.
D'accord.
On a failli passer à côté.
Oui, j'ai
pas envie, moi, que... C'est quand même le Washington Post qui en parle. C'est un sport qui se pratique en salle, qui répète à peu près tous les mouvements qu'on peut faire avec un cheval, c'est-à-dire le dressage, l'obstacle et tout. Mais la particularité, c'est de le faire avec un balai et une tête de balai.
Alors, si j'ai bien compris...
Une tête de cheval.
Alors,
attendez,
pas de polémique, s'il vous plaît. S'il vous plaît,
attention,
on sait avec qui vous dîniez hier soir et qui vous représentez.
Oui.
Si, je vais être précis, vous voulez dire qu'aujourd'hui, en Finlande, des gens s'adonnent à un sport dans lequel ils sont juchés sur un bâton, un balai avec une tête de cheval et ils mimeraient les mouvements de l'équitation comme ça, je dirais, en toute...
Avec des pieds hennissements, avec des...
Les vidéos sont incroyables.
Voilà. On peut accéder, Marie-Missé, à des vidéos sur ce sujet.
Et ils travaillent leurs mouvements.
C'est incroyable.
Comme le cadre noir.
Incroyable.
C'est génial.
C'est
formidable.
Mais ça, les gens, il n'y a que vous et Marie-Missé pour aujourd'hui alerter la France sur ce sujet-là.
Mais c'est grave.
Qu'est-ce que vous en tirez aujourd'hui sur la pratique sportive dans les pays nordiques ?
Eh bien, je pense qu'ils ont gardé leur homme d'enfant, qui vont très très loin. On se fout beaucoup d'eux, mais moi je trouve que c'est fort, parce que moi j'ai fait du cheval balai quand j'étais petit.
Je me rappelle.
Vous vous rappelez, comme ça, mon frère faisait même du cheval aspirateur.
Du cheval aspirateur, sur l'aspirateur des parents.
On peut faire plein de choses.
Qui venait de chez Kiloutou, puisque vos parents avaient refusé de l'acheter.
Et ma sœur faisait de la mouche avec deux pompes, vous voyez.
Ah là, pardon, non, ça je vois moins bien.
Elle prenait deux pompes à la toilette et elle faisait... Et elle faisait la mouche.
Non, alors, pardon. Autant sur le balai, autant sur l'aspirateur. Vous allez un tout petit peu. Je demande à Nathalie Saint-Cric d'intervenir. Parce que là...
Elle dort. Je pense que.
Merci, Atmène. Tito, quelle est pour vous l'actualité vraiment qui vous a frappé, qui vous a empêché de dormir?
Alors, moi, l'actualité qui m'a empêché de dormir, les petits animaux qui sont tout mignons, ils sont en train de se réveiller depuis le mois d'avril. Alors, parce qu'ils ont hiberné, il y a les chauves-souris, il y a les petits écureuils qu'on va voir bientôt dans nos arbres.
Vous voulez dire qu'on est. Attends, attendez, attendez, parce que là, c'est, oui, c'est grave.
C'est, oui, grave.
C'est grave. Ça veut dire qu'on est en ce moment, dans la nature, dans les campagnes françaises,
exact,
on est en période de fin d'hibernation.
C'est ça, tout
donc
à fait.
Sortent des terriers, sortent des nids, sortent des petites cavités, des petits animaux qui auraient donc dormi tout l'hiver.
Ils ont dormi
des,
tout l'hiver.
Une armée de rongeurs qui
ouais,
arrivent.
C'est ça. Et pas que les rongeurs.
Des
pas
gros
pas que.
Pas que les rongeurs. Il y a aussi les tortues. Il y a aussi les lézards.
La tortue hiberne, Tito.
Ouais, la tortue hiberne, la tortue terrestre s'enterre et hiberne. Ouais.
C'est, alors c'est la maman qui arrive ou est-ce qu'en fin d'hiver c'est le petit qui sort de l'œuf?
Alors le petit sort de l'œuf au printemps, mais par contre il met du temps à grandir. Hein.
Alors toi qui sors du débat, que tu balades dans la campagne, tu vas donc voir des tortues.
Oui, des hamsters. Des
hamsters avec un H aspiré que beaucoup d'enfants
ouais.
oublient en ce moment dans les dictées.
Ouais. Et surtout le petit hérisson qu'on peut retrouver dans son petit jardin. Il y en a plein à Paris dans les petits...
Il y a beaucoup de hérissons. Certains ouais. disent qu'il y a trop de hérissons en France en ce moment. C'est un débat, bien sûr.
Et ça fait
oui.
beaucoup
de... Heureusement, mes amis, voilà. j'ai des amis gitans qui je peux dire qu'il est mal.
Alors, des atouts.
Vous me signaliez aussi...
Mais il y a la marmotte qui...
mouflette.
Mais la marmotte est sortie.
Et puis dans les Pyrénées, il y a l'ours.
Bien sûr.
Il y a l'ours, mais bon... Il n'y en a pas encore beaucoup, mais ça
l'ours
va revenir
hiberne,
bientôt.
Oui.
Toi qui écoutes cette émission ce matin, déjà, tu ne t'éveilles pas en vain, tu ne t'éveilles pas avec... je ne sais plus.
Marie-Missy avait une info.
Parce qu'en fait, j'avais oublié, les musiques qui partent comme ça sont très fortes en émotion. Marie-Missy.
Ah, on est reparti.
On est reparti.
Alors déjà, moi j'ai appris
parce
ce matin.
Parce que là, pour le moment, je peux vous dire, je me sens moins con qu'il y a deux minutes.
Ok, alors on est. Ce matin, j'ai appris dans Le Parisien qu'on n'appelle plus Thierry Meugler Thierry Meugler. Ça,
le couturier Thierry Meugler.
Ah oui. Maintenant, il veut qu'on l'appelle Manfred Thierry Meugler.
Wow. Comme le Love Symbol Prince.
Ah oui.
Mais je ne sais pas. Le Prince s'appelait Manfred.
Non, il s'appelait Love Symbol.
Love Symbol pour changer pour sa maison.
Donc il a changé de nom. Attendez, ça c'est grave.
Mais quelle idée de s'appeler Manfred.
Il n'a pas changé de nom. Il s'est rajouté son petit Manfred devant. Bon, voilà. Et
j'ai
il
peur
a
qu'il y ait
décidé...
des gens qui, sous la douche, entendent ça, fassent tomber leur savonnette, renversent leur café, giflent leur gosse, ouais, se recoucher. Alors, il a changé, oui.
Il a décidé de d'aider beaucoup cette femme qui s'appelle toujours Cindy Sanders. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez.
Comme un papillon de lumière.
Voilà, papillon de lumière, c'est le genre de personne dont Internet adore se moquer. Et lui, il n'a pas laissé faire ça. Et il s'en occupe maintenant depuis un petit bout de temps. Il dit qu'il l'a vue à la télé, qu'elle gesticule trop, qu'elle est en surpoids, mal chorégraphiée, mal lookée, mais qu'elle méritait certainement pas la vague d'insultes qu'elle a pris derrière. Je trouvais qu'elle avait des belles épaules et une belle voix. Et donc, il a décidé de devenir son Pygmalion. Et
elle, son égérie, en fait, plus ou moins. C'est ça ?
Très bien.
Exactement. Pygmalion et égérie, ça va bien ensemble. Ouais. Et là, elle sort un mini-album de 6 titres. Donc, tout ça sponsorisé et travaillé par Manfred Thierry Meugler.
Mais il a quand même pris un pseudo pour s'occuper d'elle.
Peut-être qu'il s'est caché derrière un pseudo pour ce sujet. Admène votre dernière info du jour.
Oui, mon info du jour, c'est quoi ? C'est sur les lunettes de notre ami. Eh bien, il y a eu une opération pour aider François Fillon qui s'appelait 15 000 lunettes sourcils pour lui donner un petit coup de jeûne pour le faire rigoler avant le premier tour qu'on a tout de suite retiré de...
En effet, l'équipe de François Fillon avait commandé 15 000 lunettes sourcils une fois qu'il était qu'il allait être élu.
Avec un t-shirt qui disait « Je ne sourcille pas, je vote Fillon ».
Voilà.
Oui, c'est vrai.
Et
ces 15 000 paires de lunettes se retrouvent aujourd'hui dans des cartons quelque part, dans un entrepôt au Havre, qui sont là, prêts à repartir pour d'autres en campagne, d'autres destins. Comme c'est beau ce matin. En ce moment, en France, des rongeurs sortent des terriers, des tortues sortent de leur offre. En ce moment, quelque part au Havre, des lunettes François Fillon avec des sourcils attendent d'être jetées, mangées ou offertes à d'autres candidats à fort sourcil. En ce moment, en France, des couturiers changent de nom pour écrire des chansons à des chanteuses oubliées. Comme on est bien, comme l'actualité est riche. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre hier ?
Il y a eu le débat.
Ah, ben on va en parler aussi. Bon, allez, à tout de suite. Non mais Atmen, vous l'avez regardé en entier le débat.
Oui,
quand
en
même.
Entier, oui.
Parce que moi j'avoue, j'étais crevé hier soir au bout
vous
de 5 minutes.
Vous n'avez pas tenu.
Non, il y avait un niveau d'agressivité, ça m'a pas... Peut-être que, je ne sais pas...
Elle s'est trompéisée, elle y est allée quand même un petit peu au début, c'était très agressif, et lui a joué fond de filet, moi je trouve, il a tenu la baraque quand même. Parce qu'elle, avec ses phrases qu'elle lui a dit, arrêtez de parler de mon programme, parlez du vôtre, et on s'est rendu compte qu'elle n'en avait pas, voilà, moi j'ai envie de le dire. Et puis...
Mais comme spectacle.
Comme un spectacle. Alors, je trouve que d'abord c'était très bien mis en scène, c'était très très bien mis en scène, très très bien filmé, mais on se rendait compte d'abord sur le jeu, elle jouait quelque chose alors que lui était. Et je trouve que sur ses ruptures, quand elle voulait être cassante, Elle avait du mal à se reprendre, elle avait du mal à tout d'un coup repartir. Ses ruptures étaient mal faites. C'est-à-dire quand elle disait « taisez-vous, je peux terminer », derrière, elle avait besoin d'énergie pour repartir sur son programme. C'est en ça qu'on se rendait compte qu'elle jouait ses ruptures. Alors que lui disait « je ne peux rien dire ». Il avait baissé les bras en disant « je vous laisse parler comme un tunnel ». Et c'était magnifique.
C'est
parce
quoi
que...
cette nouvelle mode qu'il y a où tout le monde doit être souriant tout le temps?
Oui, quand même dans le débat et finir par des bizarre. Sourires comme ça, qui oui. sont des faux trucs de politesse qui ne marchent pas.
C'est très fait. Inquiétant un sourire qui ne vient pas de loin, quoi, qui est juste un sourire de visage.
Oui, on n'est pas obligé de faire un sourire pour dire, oui. écoutez, je reste très calme. On
oui. aurait dit qu'il pour montrer qu'on ne s'énerve pas.
On ne s'énerve pas, blessé, on passe par un sourire, par un ultra bright qui ne marche pas. Et je trouve, ça c'est un point de vue politique, je trouve qu'elle avait que son programme, enfin, ses invectives étaient contre Fillon, ou contre Hollande s'il avait été président. Elle avait un dossier contre un jeune, contre un type qui avait 10 ans de moins qu'elle. Donc c'était très bizarre quand tu lui disais « Vous êtes responsable de cette politique-là, vous êtes responsable de ça ». Mais il a dit à un moment donné « Écoutez, moi j'étais pas là il y a 4 ans, vous m'accusez d'un truc que je n'ai pas fait ». Et à un moment donné, ça tournait à vide, elle pédalait dans la semoule.
Alors les gens disent qu'on n'a pas entendu du tout les journalistes.
Ah non, pas du tout. On a un Nathalie Saint-Cric qui essaie de mener le débat... comme une tante comme ça qui sert le thé entre deux cousins qui s'engueulent pour l'héritage. C'était très bizarre. Elle était là, ne vous battez pas, je suis chez moi, cassez pas la vaisselle. Et l'autre à côté qui bougeait pas, à qui on semblait, on dirait que dans l'oreille, on lui disait « souris, réagis !» On lui donnait des coups de coude à un moment donné. Lui aussi souriait bizarrement, il regardait sur le côté, c'était très bizarre. Mais c'était un débat qui était assez dur, assez long. Et moi, j'étais très surpris par les cartes blanches à la fin. On lui a dit « Est-ce que vous avez une carte blanche ?» Et elle a dit, comme un élève qui n'a pas bûché avant l'interro, « Ah non, j'ai pas de carte blanche. » J'ai envie de dire, c'était très pauvre pour elle à la fin. Mmh. Et lui, il a fini comme ça sur un truc sur la France. Elle a voulu parler surtout à ses électeurs. Lui, il a parlé aux Français, je trouve.
Je rêve ou vous n'êtes pas un fou de Marine Le Pen?
Pas génialement fou. Non, mais j'ai le droit de le dire aussi, non?
Je sais pas, je trouve ça incroyablement engagé. Qu'il était Bernard. Non, il a vu le débat, il y a Bernard Zécrit.
Mais Zécrit va en parler parce que moi je peux pas en parler tout seul, j'ai besoin aussi.
Alors voilà, ce point-là, il y a du lot journalistique. Mathieu ?
Oui ?
Vite un petit moment de poésie et de chanson. Mathieu est chanteur.
Bonsoir.
Bonsoir, c'est fini cette émission, on dit bonsoir à 8h du matin. Mathieu, je l'ai croisé dans un restaurant à Arles, il chantait comme ça pour le plaisir. Et je me suis renseigné, il est chanteur et il a un spectacle qui est demain soir chez Madame Arthur à Pigalle, ça s'appelle Vice et Vertu. Qu'est-ce que vous m'aviez chanté au restaurant, Mathieu, l'autre soir?
Je vous avais chanté Opium.
Oui, bah, très bien.
Ah oui, alors c'est une chanson des années 30, célébrant les méfaits de la drogue.
Oui, c'est mal. Alors,
c'est
qu'est-ce que vous voulez nous le rechanter un tout petit peu? Vous avez une autre idée?
C'est Fréhel qui chantait ça, non?
C'était Fréhel. Oui, Fréhel. Il y a une Itajo aussi. D'ailleurs, si vous n'avez rien à faire, vous y êtes conviés ce soir, demain soir.
C'est demain soir. Je peux y aller ce soir, mais je risque d'attendre 24 heures devant la porte. Oui.
Et j'ai un peu du mal avec le décalage horaire.
Alors, qu'est-ce que... Mathieu, chantez-moi un petit extrait, s'il vous plaît.
D'accord.
J'aime bien vous prendre la voix.
Je m'éloigne un peu du micro.
Oui, mais enfin, restez dans la région, quand même.
Oui, oui.
Ne quittez pas le département.
Un extrait du spectacle.
Opium, fumée cruelle. Opium, oiseau menteur. C'est toi qui nous révèle tout le néant de notre cœur.
Les voisins.
Attendez, il y a les voisins qui arrivent.
Oh, c'est quoi ce bordel?
Il y a les voisins.
Hey, c'est pas l'organisation.
Attendez, on a un problème avec les
Merde.
Voisins. Oui, monsieur.
Hier, c'était le débat ou j'ai du foot?
Mais non, mais monsieur, on a une radio. C'est parce qu'il y a des gens qui chantent.
C'est qui chante, là?
Mais c'est là, au téléphone, un monsieur qui chante. Vous avez chanté dans votre appartement, là, Mathieu?
Tout à fait.
Ça, vous êtes très apprécié du voisinage?
Ah, ça va, oui, il m'aime bien.
Mais vous êtes formidable. Mais alors, comment s'appelle votre voix?
Ah, moi, je suis un ténor lyrique.
C'est extraordinaire. Et alors là, sur scène, vous serez accompagné quoi? Vous êtes combien?
Alors, nous sommes deux.
Oui.
Je suis accompagné par Guillaume Franceschi, qui est un guitariste flamenco.
Oui.
avec lequel on a fondé le duo Vice et Vertu.
Formidable. Et nous, on en a un aussi, on a Tito en guitare flamenco. Ben écoutez, on viendra vous voir, c'est demain soir chez Madame Arthur à Pigalle. Et puis, de temps en temps, on vous appellera, ça fait du bien d'entendre votre
voix. C'est magnifique.
Merci infiniment, cher Mathieu.
Je vous en prie.
Ça réveille.
Je vous laisse avec vos voisins. Merci.
Merci, au revoir.
Tiens, Thierry, qu'est-ce que vous êtes Vous êtes quoi comme voix, vous?
Moi, je suis une voix de basse.
C'est vrai?
Ouais.
Vous chantez quoi?
Alors, on blague là-dessus, mais je participe à une chorale.
C'est vrai?
Ouais, ouais.
Et vous chantez quoi?
Alors là, en ce moment, c'est du charpentier, donc c'est du baroque, voilà.
Alors, je sais
je vous dévoile de ma vie privée.
Il y a beaucoup de chorales religieuses. Vous êtes athée? Est-ce qu'il y a des chorales athées où on chante « On va bouffer du curé »
Je la connais par cette chorale.
Là, c'est des gloires aux puissants, là.
Oui.
C'est des textes de Marc-Antoine Charpentier. Et donc c'est,
ouais. Gloire aux puissants, vous êtes l'ami des riches et des puissants.
Ah bah toujours,
c'est
j'ai toujours été.
Marine,
je ne m'en cache pas.
Alors on écoute.
Mais les chorales ont été remplacées par Mythique.
Oui, mon chéri.
Les chorales
pour rencontrer Mythique.
Voilà.
Oui.
D'autres trucs, je le dis, non, parce que...
Oui, adoptadmen.com.
Je crains de faire retomber un peu l'ambiance. Je veux affoler surtout personne, mais sachez-le, des médias sont rassemblés en ce moment devant le palais de Buckingham, résidence de la reine Elisabeth II à Londres, après un article de presse qui fait état d'une réunion d'urgence très inhabituelle. On n'en sait pas plus pour l'instant. Elisabeth II, elle a 91 ans. Je le rappelle quand même au cas où. Attaque, injure, dénigrement, le duel entre les deux finalistes de la présidentielle a rapidement viré hier soir à la foire d'Empoigne. Marine Le Pen a lâché ses coups contre Emmanuel Macron dès les premières minutes, avec une acrimonie peu habituelle dans ce type d'exercice. Elle a constamment renvoyé son adversaire au quinquennat de François Hollande, dont il serait l'héritier. Emmanuel Macron, lui, il s'était forcé de rester calme avant de hausser le ton, lui aussi, parfois, hein, vous dites des bêtises. C'est du grand n'importe quoi, c'est ce qu'il a déclaré notamment. On aurait pu écouter un extrait, mais on va pas le faire maintenant, on l'a fait tout à l'heure déjà dans le before de Nova, en fait. Ouais, on va rien vous cacher, c'était écrit sur ma feuille. Selon un sondage, et là, pour BFM TV, mais laisse tomber. Selon un sondage...
Dis donc,
je vous demande
comme disait Macron, plus fine, oui.
Je vous demanderai de vous tenir.
Non, s'il vous plaît, madame Dacric, intervenez.
Vous êtes indigne pour l'info.
Je sais, vous dîniez avec vos amis, là.
Tutoie. Une chorale, un foie gras, et puis c'est parti.
Et allons-y, pendant ce temps-là, sur le dos du français.
Et qui c'est qui paye?
Ça sort de la poche
du con.
C'est du con, c'est moi.
Bon, en tout cas, selon un sondage Elab pour BFM TV, 63% des téléspectateurs ont jugé l'ancien ministre de l'économie plus convaincant que son adversaire du Front National. Et puis à gauche de la gauche aussi, parce que c'est intéressant, 66% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont également jugé Emmanuel Macron plus convaincant. On l'a vu cette semaine, le monde de la culture est monté au front, c'est le cas de le dire, pour appeler à voter contre Marine Le Pen. C'est de nouveau le cas ce soir, avec un concert Place de la République, lieu hautement symbolique s'il en est, un concert organisé par l'Union des étudiants juifs de France, par la FAGE, et SOS Racisme. Dans un communiqué commun, les trois organisations réaffirment leur attachement aux valeurs républicaines et à faire barrage à l'extrême droite. Alors au programme, entre autres, les Vents Passent, Camille Bas-Bas, Tété, FFF, les rappeurs Mokobé et Passy, ou encore Pete Doherty, carrément.
Et Franck de la Personne a décidé qu'il allait au cas où.
Qui était à la billetterie, et à la buvette.
Les Algériens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour des élections législatives qui ne semblent pas les avoir beaucoup emballés. Les études d'opinion tablent d'ores et déjà sur un faible taux de participation, alors que le régime d'Abdelaziz Bouteflika compte beaucoup sur ce scrutin pour renforcer sa légitimité, et donc du coup c'est pas gagné. Barack Obama a dévoilé le design de sa future bibliothèque présidentielle. Elle sera construite à Chicago, sur le Jackson Park. C'est un square créé à l'occasion de l'Expo universelle de 1893. Les dauphins et les orques vont finalement voir leurs conditions de captivité améliorées. Après 23 mois de discussion, un arrêté visant, je cite, à garantir le bien-être des animaux dans les parcs aquatiques a été validé par la ministre de l'Environnement.
Mais parce qu'ils sont combien par bassin? C'est ça qu'il faut savoir.
Attendez, c'est très grossier ce que vous faites.
Mais on en a parlé.
Vous êtes très grossier, parce que moi, Thierry paraît que magnifiquement son travail,
mais vous m'avez pas dit
qui
ça,
rend hommage au monde tel qu'il est, tel qu'il va.
Ah, j'ai la nausée. Oui.
Et vous arrivez avec cette arrogance parisienne comme ça, qui a interrompt, qui a raison, qui sait ce qu'on doit parler, comment on doit lire, je trouve ça très grave.
Oui.
Surtout qu'il arrivait à ce sujet important de ce petit bébé chat qui aurait joué qu'une pelote de laine pendant qu'un bébé tombait sur un coussinet.
Ouais.
C'est maintenant ça?
Monaco contre la Juve, c'était un peu ça hier, effectivement. Il y a quelques jours, Monaco avait laissé filer sa demi-finale de Coupe de France contre le PSG en alignant une équipe bis. Objectif, se préserver pour la Ligue des Champions. On s'est un peu raté, hein, puisque Monaco s'est incliné 2-0 hier soir à domicile face à la Juventus de Turin en demi-finale allée de la Ligue des Champions, et les Monégasques ont fait face à des Italiens cruellement efficace. La Juve et le Real ont donc un pied en finale, déjà, on peut le dire. Et puis, décidément, ce mercredi n'était vraiment pas le jour des clubs français de football, puisque Lyon n'a pas fait mieux en Europa League. Le club a même fait pire, puisqu'il s'est incliné 4-1 sur le terrain de l'Ajax d'Amsterdam en demi-finale aller de la compétition.
Cruellement efficace, c'est ce que les dames disent de vous, Thierry Paré.
À la chorale.
Un extrait de Marc-Antoine Charpentier par Thierry Paré, oui. Aux cieux puissants.
Non, je peux pas, là.
C'est trop.
Je peux pas, je suis désolé. Je ne peux pas,
si vous ne le faites pas chez nous, moi je suis gentil.
Si ouais.
Mais à 9h, moi j'ai Yacine Bellatar qui arrive. Ouais. Lui, vous le fera faire. Alors faites-le chez nous. Voilà. Parce que nous
laissez-moi réviser un peu.
Réviser un peu pour 8h. Alors Tito, je ne vais pas vous mentir. Ça fait plusieurs jours que les gens ne savent pas du tout le temps qu'il fait. Est-ce que vous êtes prêt à remettre au goût du jour la météo?
Oui!
Le mec qui surjoue chaque fois.
Elisa, suis-moi au cou. Elisa, cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Bonjour à tous, jeudi 4 mai, Saint-Sylvain, Sainte-Sylvaine, les Sylvans, les Silouanes, les Sylvanes, les Sylvas. Enfin, voilà. Alors les températures seront aujourd'hui, il pleut un peu partout, mais il y a un peu quelques nuages, il y a un peu de soleil, donc c'est à vous de voir dans quelle région vous vous trouvez. Les températures seront à Angers de 8 à 19, à Beauvais de 7 à 17, à Boulogne-sur-Mer de 9 à 13, à Dreux de 7 à 18, à Laval de 8 à 18, à Marseille de 8 à 18, Montpellier de 11 à 17, à Paris de 8 à 18, à Pau de 13 à 28, à Poitiers de 7 à 18, à Reims de 6 à 17, Saint-Étienne de 3 à 15, Vienne de 6 à 17. Elisa, saute-moi au cou. Elisa, les autres on s'en fout. Tes ongles et tes doigts délicats
dans la jungle de mes cheveux, Lisa. Merci Tito. Pendant que Tito nous dit le temps qu'il fait, Jacques souvent vit le temps qu'il fait, puisqu'il est en extérieur, alors que nous, cadres dorlotés, choyés par la mollesse des radiateurs, nous sommes là. Tito ?
Oui ?
Non, pas Tito, c'est Jacques, j'embrouille tous les mecs, pour moi je les embrouille tous un peu.
Tous les mecs s'appellent Tito,
c'est un film de Godard.
Je suis avec David sur un banc. David, ça fait plusieurs années qu'il est SDF ici, mais il a une histoire incroyable, il est argentin. Et il a fui l'Argentine au moment des émeutes de la faim vers 2001. Il traversait toute Amérique du Sud, s'est retrouvé en Guyane française. En Guyane française, il fait Cayenne-Kourou à pied. Là, il est embauché par un gars pour faire de l'électricité. Et puis, il repart en avion. Il atterrit à Paris. Et à Paris, il est SDF ici. Et David, là, on parlait de votre troisième vie. Vous vouliez être réincarné en corbeau?
Corbeau, non, je ne crois pas en corbeau. Un papillon, peut-être.
En papillon, c'est mieux?
Oui, c'est calme, tranquille, des pleurs en pleurs.
Mais ça ne vit pas très longtemps, le papillon.
Ah oui, c'est pas grave. Je le prends la vie avec philosophie.
Vous m'avez dit, à Paris, c'est facile de manger. Le plus difficile, c'est dormir.
Oui, c'est ça. À Paris, c'est plus facile. On ne peut pas mourir jamais de faim. Ici, on peut manger partout. Même dans la poubelle, les gens jettent beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'associations qui nous aident à nous. Voilà, c'est pour manger. Je dis merci à Paris. J'aime bien Paris. Quand j'étais... problèmes économiques, tout ça, je viens à Paris. C'est mieux pour moi parce que ici, je pourrais manger partout.
Bonjour David.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur. Et comment vous faites? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous connaissent, qui vous apportent à manger. Comment vous arrivez à vous débrouiller?
Non, parce qu'ici, il y a une association que je connais, je t'ai désigné, je vais aller au même endroit, c'est Oberkamp, à la maison de la charité. Et là-bas, on allait à 9h, il s'ouvre à 9h le matin et c'est le dernier, c'est 11h le matin.
Et ensuite, comment se déroule votre journée? J'ai entendu que pour dormir, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit calme où on vous laisse dormir. Il n'y a pas du tout d'endroit... Comment vous faites?
Oui, je me trouve un petit endroit. Je marche jusqu'au nord le matin. Je regarde que tout est bien calme. Et après, je regarde un petit coin. Je me reste là-bas jusqu'à 6h le matin. Et je dors là, tranquille, sans faire rien de bruit. Et après 6h le matin, je nettoie toutes mes affaires. Je garde tout à un autre endroit. Ça passe comme ça.
Et c'est important pour vous le changement de saison ou finalement ça ne change pas grand-chose?
Oui, des fois, oui, le changement des fois pour moi, c'est l'hiver, c'est tout. J'ai attrapé la maladie des jeunes de mon pied quand j'étais SF 3 ans ici à Paris. Il m'entrait le froid. Je dormais dans les canals. Et même, ça fait déjà 2012, 2003, 2004, quand j'étais SDF ici en France. Après, je suis allé en Espagne.
Qu'est-ce qui vous fait tenir? Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer? Qu'est-ce que vous attendez, en fait?
Qu'est-ce que je attendais?
Qu'est-ce que vous espérez?
Oui. Oui, je attendrai travailler, habiter ici à Paris, en France. Je l'aime bien, ce pays. Et l'avenir, vous savez qu'aucune personne ne garantit l'avenir. Je vis de jour à jour. Et voilà, je suis content. Avant même, même si je suis bien, je suis très content. Je n'attends rien. Hein.
Vous dites de travailler, vous pensez que c'est possible? Comment vous faites pour essayer de trouver du travail? Vous arrivez à avoir des rendez-vous? Il y a des gens qui vous dépannent un peu?
Oui, parce que heureusement, quand j'étais en Espagne, j'ai vécu 7 ans en Espagne, je me bats tout. J'ai trouvé la nationalité espagnole. Et je suis venu ici, je travaillais dans les sous, dans les pommes, et avec ça, j'ai trouvé ma carte CEU. Maintenant, je travaille, ça fait 2 mois que je travaille en Champagne-Ardenne, dans le Champagne.
Oui.
Et maintenant, je suis venu avant-hier, je m'ai écrit à Pôle emploi. Maintenant, je ne suis pas, je suis allé chercher du travail. Avant, je ne m'ai pas inscrit parce que je croyais que la chance, je trouvais tout de suite. Comme je n'ai pas de sous, je n'ai pas d'argent, je suis venu à Paris, jusqu'à ce que je toucherai mon chômage. Et après, j'essaierai tout de suite à trouver du travail, des maisons, tout ça.
Vous avez parlé de Champagne-Ardenne, donc parfois vous faites quoi? Vous êtes saisonnier, vous faites les vendanges, par exemple?
Non, je travaillais en CDI, 3 ans et demi, je travaillais.
Donc là, c'est une période creuse, là, en ce moment?
Oui, c'est une petite période, c'est comme ça, jusqu'à ce que je touche mon chômage.
Vous marchez, vous êtes assis sur un banc, comment se déroulent vos journées?
Oui, ma journée, par exemple, je vais rester ici jusqu'à 9h. À 11h, je vais aller à manger là-bas, une maison que je connais.
Oui.
Et après, là-bas, je vais aller à canapé, à Châtelet. Et là-bas, je vais un petit peu, je vais lire des livres français, tout ça, pour parler un peu mieux le français.
Ah, vous apprenez le français en même temps?
Oui, voilà, je ne veux pas perdre mon temps. Alors, je viens ici, je me profite pour essayer d'apprendre un peu aussi.
Alors, si on va faire des échanges franco-espagnols. Est-ce que vous avez un poème argentin ou espagnol que vous pourriez me dire? Et moi, après, je vous dis un petit extrait en français, comme ça on apprend mutuellement les langues.
Un poème en espagnol?
Oui.
Tu quieres que hable en espagnol?
Non, mais justement, comme ça, je vais apprendre
en
l'espagnol.
En espagnol ou en argentino?
En Argentine, un poème argentin.
Bueno, nosotros, en Argentina, no usamos la Z. Decimos la S. No sé si usted me comprende a mí.
¿Ça voulait dire quoi?
No, yo voy a decir que nous, en España, en Argentina, en España, il parle avec la Z, a nous, on l'a avec la S. C'est pas la même chose, l'espagnol de nous, que c'est pareil, ouais. Pero les accents sont différents.
Et si tu peux me permettre, David, moi j'aime beaucoup ce poème qui est l'hymne de votre pays, qui est En el cielo. Las estrellas en el campo, las espinas, y en el medio de mi pecho, el corazón de la República Argentina.
Ah, mi país, la Argentina.
Oui.
Yo añoro mi país. Pero bueno, las circunstancias económicas han sido que yo esté acá. Yo aime mon país. C'est la circunstancia que yo soy là-bas, loin de mon país. Voilà, j'aime bien. Je regarde la télé tout le temps, les journaux, tout ça, pour rester toujours dans mon corps, mon país.
David, on espère que Jack reprendra contact avec vous et qu'on pourra continuer à apprendre le français et l'argentin les uns les autres.
Merci beaucoup, monsieur, pour l'opportunité que me donnez-vous de m'exprimer.
Merci, monsieur.
Je dis merci, monsieur.
Merci, monsieur.
Et merci à cet pays, la France, que je l'aime tellement. C'est pour ça que je me battu pour vivre ici.
Merci beaucoup.
Au revoir, merci.
7h-9h, plus près de toi. De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi?
Ah, il fait une chaleur dans cette émission.
Ah, mais non, parce qu'une étudiante en médecine qui est venue voir l'émission, alors elle te est en train de faire un numéro pour se faire soigner. Bonjour Philippe Sprang.
Bonjour.
Mais parlez dans le micro, mon vieux, ça fait 70 ans que je vous le dis.
Il marche?
Oui, il marche bien entendu. Vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes accompagné de Geoffrey Dorn, qui est l'auteur de Hacker Citizen, comment hacker la ville. Voilà un beau thème. Non mais garde-moi le micro.
Oui, c'est un guide de survie citoyen au milieu urbain qui propose des idées à faire vous-même pour détourner la ville. C'est drôle, c'est poétique. Il y a des bombes à graines, des poubelles sportives, des graffitis sonores ou encore des bombes infrarouges. Alors, bah, c'est écrit en français, traduit en anglais, c'est très chic. C'est un beau petit ouvrage là, qui viendrait d'être une réimpression, c'est ça, Geoffrey ?
C'est ça, exactement.
Alors, présentez-vous, vous êtes qui et comment vous êtes arrivé sur cette histoire là ?
Très bon. Mon petit Nathalie Saint-Cric.
Et ben, en deux mots, je m'appelle donc Geoffrey Dorme et je suis designer, donc designer numérique, mais aussi designer graphique, etc. Et puis, il y a quelques années, cette thématique du hacking s'est emparée de moi et j'ai essayé de m'emparer d'elle. Et puis, le chemin faisant, j'ai commencé à écrire, à noter des idées, à les concevoir, etc. Et puis à les rassembler aussi, parce qu'il y a beaucoup de projets autour du hacking et du détournement.
Alors, ce n'est pas seulement du hacking, justement, là, ce n'est pas du hacking virtuel, du hacking sur le net, c'est du hacking in situ, quoi, dans la ville, comment on peut détourner des objets, des idées un peu comiques pour transformer la ville en terrain de jeu.
C'est ça. Souvent, on parle de hackers comme des pirates informatiques, avec leurs lunettes qui font peur derrière leur ordinateur. Là, on est vraiment sur des citoyens qui détournent, qui se réapproprient l'espace urbain, etc.
Alors, comment on peut bien se marrer dans la ville, Geoffrey Dorn ? Allez-y, envoyez un petit peu. Allez, on y va. On marche dans la rue, par exemple.
Il y a beaucoup d'exemples. On peut détourner certaines affiches publicitaires. On peut se réapproprier des espaces comme des places de parking, par exemple.
Pratiquement.
Alors, sur les affiches publicitaires, on a vu pendant la campagne électorale, il y a eu plein de choses délirantes.
Il y a eu des graffitis, puis il y a des mots qui ont été effacés. Une volonté pour le peuple de Fillon, ça devenait un vol pour le peuple, par exemple.
C'est ça. Et puis, donc, par exemple, dans l'ouvrage, on a des façons de détourner, vous savez, ces petits codes QR qu'on voit sur les affiches qu'il faut prendre en photo. Tout à coup, si on les prend en photo, ça vient de générer de la poésie aléatoire. On peut aussi prendre une place de parking. Mais qui vous a dit qu'il fallait mettre votre voiture sur votre place de parking pendant que vous la louez ? Ça s'appelle le parking day, donc vous installez de la pelouse, vous mettez un transat et vous jouez au football sur votre place de parking.
C'est comme si on adoptait un peu une place de parking, ou comment s'appelle cette artiste contemporaine ? Sophie Calle aussi, elle avait adopté une cabine téléphonique où elle avait mis des Kleenex, elle s'en occupait. Donc une place de parking,
ça peut être un lieu de vie. Il y en a qui mettent des draps blancs sur les bornes de Vélib le soir, ça fait des lumières bleues, enfin des lumières vertes sous les draps blancs, c'est assez beau.
C'est assez beau, ouais.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Au niveau des projets aussi, on a une façon par exemple de faire du graffiti sonore. Donc tout à coup, on vient rajouter du son par-dessus une affiche qui peut être muette. Donc ça vient lui donner un second message. Imaginez les affiches électorales avec un discours qui est enregistré par quelqu'un, ça peut être assez drôle.
Alors pratiquement, comment vous faites ça ?
Alors là-dessus, sur le graffiti sonore, c'est très simple. Vous savez, les petites cartes d'anniversaire, quand on ouvre, ça fait de la musique. Bah, ils en vendent des cartes vierges. Et donc, dans lequel on ouvre et on peut enregistrer un message. Donc, vous achetez tout ça sur Internet ou vous les trouvez en boutique, vous les démontez, vous enregistrez votre petit message et bam, vous allez le coller derrière votre affiche.
Oui, parce que c'est ce que vous proposez en fin de compte dans le livre, c'est que c'est une petite recette, vous expliquez comment on fait le truc, donc sur très quel simple. Site Internet on va télécharger telle chose, etc., etc. Alors, moi, il y a un truc quand même qui m'a scotché, enfin, c'est assez moche d'ailleurs, ça me concerne assez peu, mais c'est ça.
C'est les cheveux.
C'est pour le camouflage avec les cheveux. Donc, voilà. Donc, si tu ne veux pas être reconnu dans la rue, tu peux faire par les algorithmes de reconnaissance faciale que tu fuis, qui t'inquiètent vraiment, et ben, tu peux te faire une coupe voilà, pour échapper à la reconnaissance. Alors, le problème, c'est que tu ressembles à Jeanne Masse qui sort de la piscine, c'est un peu terrible, votre truc. Donc, voilà, à chaque fois, il y a une petite recette, une explication.
Dans le livre, il y a donc 50 projets, et chaque projet, il y a une illustration, il y a un petit texte qui explique voilà ce qu'il vous faut et voilà ce qu'il vous reste à faire. Donc souvent, ce qui est intéressant, c'est que les gens se détournent, le font à leur façon, se leur approprient. Et l'idée, c'est de hacker les hacks, en quelque sorte. Donc, c'est de pouvoir faire ça à sa propre...
Donc, l'idée, c'est un peu de lutter quoi, contre la banalité, contre le flicage, contre l'ennui. C'est de mettre de la poésie partout, de la liberté.
Alors, il y a en effet toute une catégorie sur la surveillance. Comment on détourne les caméras de surveillance, comment on devient invisible face aux caméras de surveillance. On détourne les algorithmes. Puis, il y a aussi des choses beaucoup plus poétiques, culturelles, artistiques. Donc, comment est-ce qu'on crée des bibliothèques de rue? Comment est-ce qu'on remet, par exemple, des cinémas gratuits dans les rues? Comment est-ce qu'on peut aussi refaire, on va dire, société dans un espace collectif, mais qu'on a souvent oublié qu'il est collectif, qu'il est la rue. Donc voilà, donc il y a différents angles, et puis chaque angle est traité dans le livre.
Est-ce qu'il faut à chaque fois préparer quelque chose ? Ou est-ce qu'on peut aussi partir en liberté dans la ville et, suivant son inspiration, transformer la ville ?
Alors, les graffitis, enfin, on va dire, les choses les plus minimalistes, c'est de se munir d'une craie, tout simplement, une simple craie ou un simple marqueur ou un posca. Et puis donc, il suffit par exemple de pouvoir dessiner tous les réseaux Wi-Fi qui sont invisibles à nos yeux, mais qu'on les détecte avec son téléphone. Dès qu'il y a un réseau Wi-Fi ouvert, on le note à la craie par terre. Et tous les nomades du numérique peuvent s'installer et puis se connecter librement un peu partout dans la rue. Donc voilà, le minimum, c'est ça. Et puis, puis après, des fois, c'est un peu plus... il faut s'équiper un peu.
Atmen fait ça qu'une bouteille de vin blanc. Il part dans les rues avec une bouteille de vin blanc et transforme la ville en autre chose.
Oui, c'est vrai. Surtout après-midi, oui, je pense.
Voilà, le livre, on va dire un peu ça, hein, ça s'appelle donc Hacker Citizen.
C'est un guide, en fait.
C'est un guide, exactement.
Ouais. Oui, c'est un livre de recettes.
Oui. Tout simplement, oui, voilà.
Et donc, c'est La ville est à vous, reprenez le contrôle, 50 ans, Hacker Citizen. Et c'est aux éditions, au Tin d'édition, c'est un bel ouvrage.
Vous avez repris la parole juste pour donner ces informations?
Non, non.
C'est une modestie d'une université.
Mais dis-moi, alors,
il y a des problèmes légaux et tout ça ou pas? Est-ce qu'il y a tout ça? Est-ce qu'il y a le sceau reconnu par la préfecture de police ou pas?
Alors, justement, dans les 50 hacks, au départ, moi j'avais beaucoup plus de hacks. On enlevait tous ceux qui étaient illégaux, qui pouvaient mettre les gens en prison. Donc on a gardé ceux qui... Voilà,
ceux qui les mettent juste en garde à vue.
Juste en garde à vue, voilà. Ouais. 24
et depuis que vous avez publié le livre, il y a eu des expériences, vous avez eu du retour, vous avez découvert d'autres choses?
Alors oui, il y a des gens qui m'ont envoyé des photos de ce qu'ils ont réalisé sur Twitter, sur Instagram, par email. Il y a des gens aussi qui ont fait ça en famille. Donc c'était assez intéressant de dire, j'ai fait ça avec mes enfants ce week-end.
Quoi, on a
fait un graffiti en mousse. Donc voilà, on mélange des œufs, voilà, on mélange de la mousse et puis on vient écrire un grand graffiti sur le mur et ça pousse.
On l'arrose toutes les semaines, c'est ça?
On peut l'arroser régulièrement, voilà, exactement.
Okay. Merci beaucoup, c'est formidable, hein, Hacker Citizen, Geoffrey. Il y a l'étudiante en médecine qui est venue avec vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Louise.
Louise. Qu'est-ce que j'en pense?
Vous avez écouté ou pas, Louise?
Oui, j'ai tout écouté.
Ça vous a donné envie de partir dans la ville, faire des conneries?
Bah, tout à fait, ouais.
Ben voilà, il y a tout à coup une phrase et une utilité, tout de suite une réaction, vous voyez, voilà. Ça ne sert pas à rien. Vous êtes formidable, alors c'est Tin d'édition, je ne connaissais pas du tout, ça va fermer ou pas?
Non, c'est une petite édition, ça va pas faire.
Bon, très bien, pas, vraiment. Merci, c'est
merci
génial.
Beaucoup, oui.
Ça me plaît beaucoup.
Et il nous a hacké l'émission, lui.
Philippe Spang, il est formidable. Tout le monde
est formidable. C'est génial.
Tout le monde a gagné. Et puis, il y a un mec qui nous envoie une musique un petit
bisous,
peu comme aux Oscars. On envoie de la musique pour faire signe qu'il
faut se taire. Il faut y aller là maintenant, monsieur. Oui.
7h, 9h, plus près de toi.
On va plus près de toi.
Édouard Baer.
À quoi vous jouez? Quand vous jouez ensemble?
Des fois, jeu de cartes, des fois, plusieurs jeux.
Ah, vous jouez aux cartes alors qu'elle a que 5 ans et demi, vous jouez déjà aux cartes?
Oui, je sais jouer.
À quel jeu de cartes vous jouez?
Des fois, au jeu de cette famille.
Oui. Et c'est toujours toi qui gagne? Comme toi, tu m'as dit que tu as 7 ans et demi, tu as 2 ans de plus, tu la laisses gagner un petit peu ou pas?
Des fois, oui.
Quand même plus gentil de laisser un petit peu gagner. Et aujourd'hui, c'est un poème de Maurice Carême que tu vas nous dire. Tu veux le dire maintenant? On peut le faire ça maintenant. Je trouve qu'on serait bien, là. Je l'écoute avec plaisir.
Je sais pas.
Si, allons-y. C'est parti. Alors.
Ponctuation de Maurice Carême.
Oui.
Ce n'est pas pour me vanter, disait la virgule, mais sans mon jeu de pendule, les mots tels des somnambules ne feraient que se heurter. C'est possible, dit le point, mais je règne, moi. Et les grandes majuscules se moquent toutes de toi et de ta queue minuscule. Ne soyez pas ridicule, dit le point virgule. On vous voit moins que la trace de fourmi sur une glace. Cessez vos conciliabules, ou tous deux, je vous remplace.
C'est la fin? Ben c'est super, ça s'est très bien passé. Tu vois?
Oui.
C'était intimidant?
Un petit peu, mais pas beaucoup.
Pas beaucoup? Qu'est-ce qui était intimidant, tu trouves?
J'avais un peu peur.
Mais... T'avais peur de quoi? De moi? Parce que j'ai une grosse barbe et des cornes? Non, c'est pas pour ça. C'est d'oublier le poème? Bah, t'es contente d'être venue quand même?
Oui.
Et bah, moi aussi, je suis très contente que tu sois venue. Je te fais plein de bisous et je te souhaite une bonne journée à l'école.
Merci.
Salut Lila.
Tout va.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cote-cote-cote. Tous les animaux de la ferme sont là. Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Édouard Baer.
C'était Lila, notre petite Charlotte Gainsbourg. Ça m'a fait penser à Charlotte Gainsbourg dans L'Effronté quand elle arrive comme ça. Mais là, elle va partir à l'école. Eh bien, Thierry Paré, vous qui détestez les enfants, hein, ça, c'est vraiment terrible. Ce que vous avez...
Là, ça me coûte, hein, de passer derrière, d'ailleurs.
Comment je l'ai... Elle appelle Ella, je l'ai appelée comment ? Il y a sa maman qui fait, je me suis trompé de prénom. Venez madame, venez une seconde. J'ai appelé votre fille comment ?
J'ai entendu Lila et en fait elle s'appelle Ella.
Ah, j'ai tout gâché. Il faudra revenir une autre fois avec le vrai prénom alors. Hein ? Salut, le journal, merci.
Quand t'as pas d'enfant, t'as pas ce problème. Emmanuel
j'ai pas
Macron.
D'enfant, moi, si, j'ai une fille aussi.
Non, non, je dis, moi qui aime pas les enfants, quand t'en as pas, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Non, c'est une blague, bien sûr. Emmanuel Macron donnait large vainqueur hier soir à l'issue d'un débat d'entre-deux tours houleux avec Marine Le Pen. Selon un sondage Elab pour BFM TV, 63% des téléspectateurs ont jugé l'ancien ministre de l'économie plus convaincant que son adversaire du Front National. À gauche de la gauche, 66% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont également jugé Emmanuel Macron plus convaincant. Le face-à-face entre les deux candidats aura souvent viré au combat de chiffonnier, hein, tour à tour goguenarde, agressive, dédaigneuse. Marine Le Pen a pilonné d'entrée de jeu Emmanuel Macron, le renvoyant à son statut d'ancien ministre de François Hollande. Ce dernier s'est attaché, alors parfois avec difficulté, à conserver un ton posé et didactique, tout en conseillant à Marine Le Pen de revoir ses fiches, puisqu'à un moment donné, elle s'est quand même pas mal embrouillée. Selon le monde de la culture, pardon, continue à se mobiliser contre le FN. Après la soirée à la Philharmonie, c'était mardi dernier à Paris, place ce soir toujours à Paris à un grand concert, Place de la République, lieu hautement symbolique, un concert organisé par l'Union des étudiants juifs de France, la FAGE et SOS Racisme. Dans un communiqué commun, les trois organisations réaffirment leur attachement aux valeurs républicaines et à faire barrage à l'extrême droite. Au programme, entre autres, les Vents Passent, Camille Bazbaz, Tété, FFF, les rappeurs Mokobé et Passy. J'en passe et des meilleurs, hein. Il y a aussi Pete Doherty, par exemple. C'est bizarre, ce qui se passe en ce moment au palais de Buckingham est très bizarre. Des journalistes sont plantés depuis l'aube devant la résidence de la reine Elisabeth II à Londres, dans l'attente d'une éventuelle annonce dont on ne connaît pas le contenu. Une réunion a été convoquée ce matin au palais, ce qui n'a rien d'extraordinaire en soi, puisque c'est plutôt fréquent. Mais cette fois, la façon dont cette réunion a été convoquée, c'est-à-dire au dernier moment, est inhabituelle et suggère que quelque chose de majeur va être annoncé.
Ouais, vous croyez que la reine...
Je ne sais pas.
Que la reine est très malade ?
Je ne sais pas. Elle a 91 ans, en tout cas.
Peut-être que c'est mis au hobby horsing, tout simplement.
Les Algériens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour des élections législatives qui ne semblent pas les avoir beaucoup emballés. On va évidemment laisser les Algériens s'exprimer dans les urnes, hein, c'est le plus important. Mais les études d'opinion tablent quand même d'ores et déjà sur un faible taux de participation au grand dam du régime d'Abdelaziz Bouteflika qui compte sur ce scrutin pour renforcer sa légitimité. Barack Obama a dévoilé le design de sa future bibliothèque présidentielle. Elle va être construite à Chicago et elle va être ouverte sur le lac Michigan. Et ce projet ultra-moderne, il devrait coûter au moins un demi-milliard de dollars. La construction d'une bibliothèque est devenue une tradition pour les anciens présidents américains. Les dauphins et les orques, ils vont finalement voir leurs conditions de captivité s'améliorer. Après 20 mois de discussion, un arrêté visant, je cite, à garantir le bien-être des animaux dans les parcs aquatiques a été validé par la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. Le texte abroge une législation devenue obsolète qui datait de 1981. Monaco s'y était pourtant préparé. Malgré tout, le club n'a pas fait le poids. Hier soir, en demi-finale allée de la Ligue des champions de football, les Monégasques, pourtant à domicile, se sont inclinés 2-0 face à la Juventus de Turin. Lyon n'a pas fait mieux en Europa League. Les Lyonnais se sont inclinés 4-1 sur le terrain de l'Ajax d'Amsterdam, là aussi en demi-finale allée de la compétition.
Pas mieux, merci. Partons dans la rue.
Je suis avec César et Fanny. Vous venez de vous rencontrer, César et Fanny, au tonneau. On est avec, c'est ça ? C'est exact. Fin de soirée.
Au petit tonneau, et puis... ouais, c'est marrant, César et Fanny, c'est super drôle.
Ah eh oui, soirée, il manque plus que Marius.
Ça fait quand même 2-3 heures.
Marius, oui. En effet, Marcel Pagnol, bravo.
Il est où, Marius ?
Marius est mort.
Non, moi je suis plus optimiste, on essaye de le rencontrer.
Alors ça s'est terminé, c'est plutôt une bonne soirée qui se termine à 8h du matin.
Non, ça ne fait que commencer.
Ah pardon, je suis très très décalé, oui.
oui.
Bah, moi je travaille dans une heure, donc quand même.
Vous allez enchaîner quoi, c'est les 3-8
je vais enchaîner tout seul. Je travaille dans une heure, c'est la jeunesse parisienne d'aujourd'hui, voilà.
Alors vous êtes rencontrés, bah, à quelle heure a eu lieu la rencontre, César et Fanny ?
Apparemment, 7h30 du matin.
Bah, pas du tout. Je pense, déjà, on est en total désaccord.
Oui, il y a un désaccord.
Je pense plutôt vers 5h30.
Alors, les rencontres à 5h30, ce sont les plus belles. Comment on se rencontre à 5h30 ? On est là, autour d'une tasse de café ?
On est là, on est autour d'un verre, on est au petit tonneau. Très important, le petit tonneau. C'est très bien. Et puis, on se regarde. Non, oui ! Putain, et je suis allée le chercher quand même.
C'est vrai, j'admets. Elle est venue me chercher, mais c'est la version de la jeunesse édulcorée parisienne qui ment,
politiquement. Il y a de la drogue dans tout ça, hein, faut l'admettre. Hein.
D'accord, alcool, drogue, prostitution, racket, travestissement, qui sont évidemment la...
On va prendre les deux premiers...
la base de...
Alcool,
de...
drogue, mais tout ce qui suit, non, peut-être pas.
Bon, bah, écoutez...
Non, je vais te laisser parler, Edouard, vas-y, parce qu'elle coupe beaucoup.
Non, mais c'est bien, je crois qu'on peut tous parler en même temps. Est-ce qu'il y a ensuite réhab, ensuite monastère, douche, et puis retour à la...
C'est ça, ouais. En Isère, chez les Chartreux, la petite réhabilitation, dans le silence.
Quels sont vos monastères de Chartreux préférés en Isère en ce moment, les trois ?
Il n'y en a qu'un. Là où on fait la Chartreuse, hein, justement.
Ah oui, c'est ça.
Je prends du vin, moi. Hein, donc
tu connais bien les moines et leurs alcools. Il y a aussi l'abbaye de Solesmes où on ne fait pas d'alcool, mais simplement des chants grégoriens. Et c'est ce que je vais te recommander, César, car je crois qu'aujourd'hui, tu es perdu dans cette ville tentaculaire où les tentations sont là, sont des menaces pour ton corps et ton âme.
Tu as raison. Je suis né 10 rue des Trois Portes à Maubert Mutualité. J'ai eu le malheur de grandir avec le professeur Choron et Cavana.
Oui.
Et de rester dans ces belles années 70. J'ai envie de me casser de Paris. Mais
et aujourd'hui, cette mission que tu t'es donnée, c'est de sauver cette jeune femme, Fanny.
Non.
Non.
Fanny veut me sauver.
Très bien, sauvez-vous les uns les autres.
Moi aussi, je me sauve. Merci beaucoup.
Merci, Perdition Gainsbourg. Merci, vous allez vous sauver l'un l'autre. Perdu dans les méandres d'une ville tentaculaire où chaque porte ouverte est une tentation, où chaque fenêtre est un mirage, où l'autre est une envie de prendre la fuite. César et Fanny se prennent par la main. Ils échappent à leur passé lourd, à leur futur incertain. César et Fanny courent dans les rues. Le vieux monde est derrière eux, tentés par les mirages, tentés par l'autodestruction. César et Fanny s'en sortiront. C'est un matin blême, c'est un matin calme, c'est un matin d'après-débat, c'est un matin de César triomphant et de Fanny fesse nue. César et Fanny et Marie-U, la trilogie de bagnole, où chacun s'invite au cœur et au corps de l'autre. Alcool, drogue, prostitution, les méandres de la mauvaise vie, celle qui vous salit et ne vous laisse pas indemne. Comme César et Fanny, comme chaque jour on fait son lit, comme elle est indélébile la vie. Allez viens, gamin, fuis.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ?
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
7h, 9h, plus près de toi.
Il y a quelque chose de magique dans le métier de chroniqueur football à la radio, très loin de la télévision. Il y a vraiment une énergie qui est transmise, un enthousiasme, il y a un côté battleur, il y a du spectacle, il y a de l'émotion. C'est un métier qui m'a toujours fasciné. Et récemment, j'étais dans un taxi et j'ai entendu une voix et qui était vraiment la quintessence de ça. Il y avait de l'émotion, il y avait de l'enthousiasme, il y avait de la sincérité. Et puis on voyait, c'est la voix donnée à voir. Et quand la radio crée du spectacle, on a l'impression de regarder la radio, c'est magique. Et c'était Bruno Salomon qui est là.
Salut.
Bonjour Bruno. Salut. Salomon, c'est sur France Bleu à Paris. Et Bruno Salomon, tu es spécialiste du PSG.
C'est ça. Je commente les matchs du Paris Saint-Germain depuis 9 ans à la radio, les matchs en intégralité. Et ce que tu viens de dire, ça me touche parce que je sais qu'on nous écoute souvent dans les taxis. Et si tu emmènes les gens au stade, En fait, il y a deux catégories. Il y a les gens qui aiment raconter. Tu prends le journal et puis tu vas raconter ce que tu as lu dans le journal. Et puis tu as ceux qui se mettent dans le stade et qui se mettent à la place du spectateur et on l'emmène. Donc on va regarder ce qui se passe sur le terrain, dans les tribunes. Et en fait, on l'emmène avec nous et on le met dans l'ambiance. Et en plus, moi, j'ai de la chance de suivre le Paris Saint-Germain. Alors, je sais que c'est un club qu'on aime ou qu'on déteste. On n'arrive pas à trouver le juste milieu chez les gens. Et en fait, il y a quand même un écrin qui est magnifique, qui est le Parc des Princes, qui est l'un des plus beaux stades en Europe. Et voilà, la première fois que j'y suis allé dans ce stade, je me suis dit, il doit se passer quelque chose entre moi et les auditeurs.
Alors toi, tu as un truc particulier, donc c'est effectivement, c'est en plus un club qui te fascine et qui te passionne, mais sur le style lui-même, on reconnaît, il y a des accélérations, ça baisse, ça remonte, il y a des montées, des descentes. Est-ce que ça se crée sur le moment où c'est à force d'en avoir écouté les grands maîtres comme Eugène Saccomanno ou des gens d'autrefois? Comment est-ce que, d'où il vient ce style quand même qu'on reconnaît, qui est plus ou moins bien interprété?
En fait, moi, ma formation, elle est dans ma chambre à l'âge de 12-13 ans à écouter la radio. Mais en fait, j'écoutais pas forcément les radios nationales. J'écoutais la radio régionale, ce que je fais moi maintenant encore aujourd'hui.
C'était où là ?
C'était à Grenoble. Ouais. C'était chez moi dans mes montagnes. Et j'écoutais des matchs de foot et de hockey sur glace. Et en fait, le hockey sur glace, ça peut vous surprendre, mais voilà, ça va vite, ça s'arrête, ça va vite, ça s'arrête, ça va vite, ça s'arrête. Et en fait, voilà, c'est le tempo. Si tu vas à fond pendant 90 minutes, tu dis au revoir à tes auditeurs, ils ne vont pas t'écouter, ils vont te prendre pour un fou.
C'est ce qu'on avait dit à Marine Le Pen il y a
semaine, justement,
vous qui l'a conseillé.
Justement, j'ai zappé assez rapidement. Voilà, j'ai zappé assez rapidement sur le match Monaco-Turin parce que ça allait beaucoup trop vite. Elle nous a un peu saoulés. Mais voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, ce tempo-là, il faut prendre la personne par la main. On l'emmène et on lui donne le rythme. C'est nous qui devons lui donner le rythme, mais c'est aussi les joueurs. C'est-à-dire que moi, j'ai commenté des matchs de 4e division et ça va très lentement.
Parce que
c'est
beaucoup plus lent. En Isère, Radio France Isère.
Ouais, j'ai commencé là-bas. Ouais. J'ai commencé comme standardiste et puis un jour, j'ai dit, j'aimerais bien faire les matchs. Et on m'a dit, un matin, on m'a dit, il faudrait que tu ailles à Marseille pour faire la réserve de Marseille contre Grenoble. J'ai emmené mes deux potes dans la voiture, faut surtout pas le dire au chef, mais j'avais emmené mes deux amis d'enfance et on est partis tous les trois. C'est la plus belle aventure de ma vie. Et bah voilà, 18 ans de commentaires.
Alors pour t'avoir écouté, je me suis aperçu qu'il y a effectivement la technique, tu réfléchis comment tenir pendant une heure et demie, deux heures, mais ce qui est stupéfiant chez toi, c'est que tu acceptes de te laisser dépasser par l'émotion, tu as limite de te casser la voix.
Oui, bah j'ai une particularité, c'est le goal. Voilà, c'est en fait c'est un auditeur qui m'a dit t'es pas capable de faire un goal à la brésilienne. Alors c'est un goal à la française, hein, mais effectivement quand un but maintenant du Paris Saint-Germain depuis 6 ans, je crie goal, je m'en pète un peu les cordes vocales. Mais je l'accepte. Mais en plus, j'ai de la chance, je remercie mes parents, voilà, qui m'ont filé des cordes vocales qui sont à peu près potables. Et je crois que parce que j'ai aussi eu un rêve dans ma vie, c'est d'être un jour chanteur de métal. Donc c'était voilà, tu vois,
les cordes vocales. Parfois, on sent que tu vas tomber, on a l'impression que tu saisis des objets, tu secoues les mecs autour de toi. Il n'y a plus les codes de la radio, il y a des aigus, il y a du larsen, dans le micro, il y a de la vie, quoi. Tout à coup, ça dépasse le cadre un peu des médias.
Moi, j'aime bien quand le foot est commandé par pas forcément des professionnels. En ce moment, il y a beaucoup d'anciens footeux qui viennent commenter le foot et tout, qui ne sont pas aussi passionnés que par des gens qui ne sont quand même pas profanes du ballon, mais qui ont envie d'y en être. C'est pour ça qu'ils en font plus, qu'ils gueulent, qu'ils font des trucs comme des vrais supporters.
J'ai la chance. En fait, j'ai des consultants. Maintenant aussi, j'ai un consultant, c'est Eric Rabé-Sandratana, qui est un ancien joueur. Puis j'ai eu Pierre Ducrot aussi pendant quelques années. En fait, j'aime aussi qu'il soit passionné. C'est-à-dire qu'il a le droit aussi de se lâcher. C'est-à-dire que mon consultant est capable de me prendre dans les bras et on peut s'embrasser. Voilà, on peut y aller, on peut se lever. Je vais vous donner une anecdote. C'est l'un des premiers matchs que je fais à Paris. Je pense que le directeur a dû dire je suis fou. Je pars sur un but et en fait j'embarque tout, le matos. Et là, tout d'un coup, la ligne. J'arrache la ligne. Et plus rien à l'antenne. Le but était marqué. Les gens se disaient mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé un truc. J'ai arraché
le
fil.
Alors tu es comment? Tu es debout dans ces cas-là?
Au départ, un match se commence. Tranquille, voilà.
Alors on y
assis,
va, attendez,
voilà.
On va essayer de faire.
Voilà, on est assis.
Tiens, Sprang, viens avec nous aussi. Sprang, viens, on va essayer d'imaginer. Tu vas commenter ce que tu vois. Alors attends. Non, prenez pas le verre en plastique. Attention. On va essayer avec Sprang de marquer contre
Tito
et Atmen.
Bouge pas, je vais me lever parce que sinon je vais pas avoir l'action.
On va, donc Bruno Salomon, le plus grand commentateur de foot, le roi du PSG, le mec que vous écoutez à France Bleu à chaque fois qu'il y a un match du PSG, va commenter maintenant. Donc l'idée. Attention, donc Sprang, Tito et Atmen contre Sprang et moi, c'est parti.
Avec le ballon, attention. Alors ça, c'est un match de rugby, les gars. Mais là, pour l'instant, avec Atmen qui tire la bouteille d'eau, Atmen qui pousse Tito, Atmen est au sol. Attention, Edouard. Non, oh là là, Edouard, le casque, Edouard. On est dans une action complètement folle. Ils sont complètement fous. Atmen devant le ballon. Atmen voudrait quelque chose, mais je ne sais pas. Attention, Atmen, là, c'est un bol de Starbucks. Mais ça va pas. Ils sont fous. Attention, attention. Goal!
C'est le goal, c'est le fameux goal de Bruno Salomon. C'est le goal le plus long du monde. Il y a 10 000 hauts, il a inventé un nouveau goal de Bruno Salomon. Bruno, on t'écoute avec plaisir. Merci d'être passé nous faire un clin d'œil.
Un grand plaisir, vraiment. Merci Edouard, ciao.
Deuxième corner pour le Paris Saint-Germain. Allez. Le Paris Saint-Germain s'est au moins installé dans ses 45 mètres, mené un but à zéro. Maxwell, corner côté gauche, les grands sont montés une nouvelle fois. Attention, car c'est sur le dernier corner que le but est arrivé. Maxwell, c'est parti, c'est levé. T'as frappé ! Goal ! Zlatan Ibrahimovic ! Goal ! Goal ! Goal de Zlatan ! Le petit pied en équerre, boum, il a le pigeon, c'est parti au fond. Et le voilà, et il est là, qui c'est le patron ? Ils sont tous en train de lui sauter dessus. But pour le Paris Saint-Germain, égalisation sur la première occasion du PSG. But, 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 et écoutez le silence.
Merci à Charlène, c'est génial ce fameux goal. C'est qui le patron?
Ah, c'est, en fait, c'est Zlatan qui fait taire le Vélodrome. Il y a 60 000 personnes en fusion et lui marque un but et là il n'y a plus personne.
C'est
qui le patron?
Voici Marie Misset maintenant. Salut.
Salut.
Qui c'est qui a dit qu'elle ne travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Oh bah je sens qu'on a tous envie de reparler du débat, ça tombe bien, je suis là pour ça.
Elle est toute seule au micro.
Mais est-ce qu'on parle de la même chose?
On va en parler un petit peu de ce débat, on n'a pas trop le choix.
Je sais pas si ça marcherait en commentaire foot, un débat. Attention, elle est là, une phrase très agressive.
C'est quoi, une phrase très agressive?
De commenter un débat politique. Oh là 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 là.
Ah, très franchement, celui d'hier était pas mal. C'est-à-dire que c'était un peu, voilà, il y avait des tacles un peu agressifs à la gorge. On était dans du.
Il était quasi un but.
Oui, c'est ça.
Et le journaliste qui ne dit rien.
C'est ça. Mais que fait le journaliste?
Que fait le journaliste? Attention, là là, c'est méchant, c'est pas joli cette petite phrase. Oh, cette bassin, il a répondu.
Voilà, le seul truc, c'est qu'on n'attendrait plus grand-chose.
Elle a eu son petit jingle pour montrer la rupture.
Oui,
remettez-le pour montrer la vraie coupure. C'est une émission fluide, mais avec des moments.
Qui c'est qui a dit qu'elle ne travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Allez, c'est parti dans les journaux ce matin. Le débat d'hier fait la une, a commencé par lemonde.fr. Donc, qui, via son site, ses décodeurs, relève 19 intox pendant le débat, toutes imputées à Marine Le Pen. Curieuse, je suis allée voir les commentaires de cet article sur les 19 intox de Marine Le Pen. L'un disait que Marine Le Pen avait été meilleure, mais qu'il savait depuis le début que le monde dirait le contraire. Un autre, sans doute moins partisan, affirme que Le Pen passe ou pas, elle a déjà un peu gagné. Le débat consiste à lancer des intox, à brailler, à insulter, à ironiser. Si la démocratie, c'est le débat d'idées, elle est déjà un peu morte. Eh bien, le climat de la presse quotidienne aujourd'hui est résumé dans ces deux commentaires. Le Parisien, comme le Figaro, comme les Échos, insistent sur l'impossibilité du débat, reprennent des expressions beaucoup lues pendant la campagne américaine dans ces mêmes journaux. Une France irréconciliable, un dialogue impossible, chacun court dans son propre couloir, nous dit en édito les Échos. L'image est assez chouette. Tandis que le Parisien, comme le Figaro, joue même de la mise en page pour signifier une France coupée en deux. Dans le Parisien, sur la page de gauche, on assiste au débat avec les frontistes, pour qui Marine Le Pen a gagné le débat, en mettant mal à l'aise Emmanuel Macron. Et puis sur la page de droite, on le mate avec des gens de En Marche, pour qui Macron a enfoncé Marine Le Pen sans difficulté. Entre ces deux pages, ces deux France, il y a les indécis et les 60% d'électeurs de Macron qui votent Macron par défaut, auxquels Le Monde a consacré un article hier, et qui n'ont pas beaucoup de place dans cette France coupée en deux qu'on nous présente beaucoup ce matin. C'est pourtant peut-être que là que paradoxalement réside l'espoir, en tout cas pour les Échos, qui considèrent que tant de gens sont délusionnés par ces présidentielles que là...
Déçus, voilà.
Par ces présidentielles, que là où d'habitude un nouveau président donnait à espérer puis à décevoir, eh bien ce sera dur de décevoir des gens déjà déçus. À partir du 8 mai, disent-ils, tout est à reconstruire, c'est l'édito des Échos, à commencer par l'opposition. Une opposition qui peut être confortable, en témoigne une pleine page toujours des Échos, sur les partis de droite populistes qui ont accédé au pouvoir en Scandinavie, en Norvège et en Finlande en l'occurrence ces dernières années. Le parti du progrès en Norvège, celui des vrais Finlandais en Finlande, longtemps très fort dans les sondages.
Un parti des faux Finlandais.
Non, celui-là n'existe pas. Oui. Longtemps très fort dans les sondages, ils sont beaucoup plus en difficulté, ces deux partis, maintenant qu'ils ont certains ministères et qu'ils ne parviennent pas à appliquer un bout de iota de leurs promesses. Ailleurs, comme ici, ils ont cependant un peu déjà gagné, puisque les partis de droite traditionnels ont repris leur thème à leur compte, surtout l'immigration. Cette idée que être dans l'opposition, c'est sympa, on la retrouve aussi dans la bouche de la deuxième femme d'Hemingway, citée par le Figaro. Franchement, Être la maîtresse, c'était plus sympa que d'être l'épouse, dit-elle. Espoir et désillusion.
J'ai pas vu ça glisser.
Je l'avais pas vu venir. Le cycle semble infernal, espoir et désillusion, mais pas forcément inéluctable. En tout cas, le mot désillusion est le maître mot d'un poème publié dans le numéro 2 de la très belle revue Relief, consacrée aux explorateurs et aux explorations. On y lit un poème donc du New-Yorkais John Giorno, à ne pas confondre avec Jean Giono. Tout est désillusion, y compris les enseignements les plus hauts qui mènent à la compréhension que tout est désillusion. Pourtant, oula, l'interview de John Giorno rend plutôt heureux.
Redites-moi cette phrase.
Tout est désillusion, y compris les enseignements les plus hauts qui mènent à la compréhension que tout est désillusion.
Ah oui, même deux fois, moi, ça ne me suffit pas.
Tout est désillusion, y compris les enseignements les plus hauts qui mènent à la compréhension que tout est désillusion.
But !
Pourtant, l'interview de John Giorno rend plutôt heureux, lui, pour qui la poésie n'a jamais été aussi vivante. Jamais autant de gens n'ont travaillé avec les mots, il dit. Les textos, c'est des formes de haïku. Les blogueurs font des poèmes en prose. Le monde merveilleux qu'est la poésie se retrouve partout. Et en parlant d'un autre poète, Kenneth Goldsmith, qui dit que la poésie est morte, il dit que cela reviendrait à dire qu'on a tué l'humanité et que c'est impossible. Celui qui dit que la poésie est morte témoigne de son propre échec. En d'autres mots, dire en permanence que les choses sont mortes, c'est révéler une impuissance à voir le beau. Je mets cependant John Giorno...
Et la beauté des choses mortes, chère Marie-Messie.
Ah, le charme des ruines.
Bien sûr.
Ah ben, il y a la beauté dans la mort.
Oui, je vous ai interrompu.
Je mets cependant John Giorno au défi de trouver, dans le moment télé d'hier soir, des moments de poésie. Peut-être dans le visage de Nathalie Saint-Cricq.
Merci beaucoup, Marie Missé. Pendant ce temps-là, quelqu'un vous a écouté. Et pour moi, c'est le chroniqueur du système, Atman. Vous avez écouté Marie, oui. Mais vous êtes vraiment... Vous représentez le système.
Oui, je représente... J'ai envie du système. Je suis le système.
Vous êtes et là, vous
J'en croque, oui. J'en bouffe du Merci. Système. Et j'ai aimé les faux finnois, qui sont les faux finlandais.
Les faux finnois.
Les faux finnois.
Ah, on comme le gratin faux
comme finnois. Les faux finnois sont les faux finlandais. Le faux finnois. On n'a pas assez parlé du gratin faux finnois.
Je ne sais pas pourquoi vous avez pris cette voix.
Parce que je suis du système.
Vous êtes Laurent de Tchel. À un moment, je ne sais plus.
Alors,
tout de suite.
La rue Gazette.
Plus près de toi.
Nova. De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi. Ah.
On ne comprend pas tout, mais c'est bien.
Rappelez-vous, nous étions en train de commenter des matchs de foot. Nous avons appris aussi il y a quelques instants que Thierry Paret, notre journaliste émérite et rappeleur de titres, était chanteur dans une chorale. Thierry, vous n'avez pas le droit d'entamer ce rappel des titres sans nous donner un petit aperçu de ce que vous chantez en chorale.
Alors, c'est particulier parce que je suis tout seul. Donc normalement, il n'y a pas de soprane, il n'y a pas d'alto, il n'y a pas d'un, on est d'accord, il n'y a pas de ténor. Voilà. Bon, j'y vais, c'est comme ça. Plenis un celi et terra, plenis un celi et terra, majestatis, majestatis, gloria tuae.
Donc, il faut voir ça avec beaucoup de monde devant. Oui. Hein, avec
il faut
Thierry.
Avoir bu un coup.
Attention, il faut voir, voir ça chez soi. Ils sont 200, puis c'est pas forcément Thierry qu'on met au premier rang.
C'est ça.
Tout de suite.
Clash vicieux, échange d'insultes, pugilat, goût amer, duel à couteau tiré. Le choix des mots de la presse internationale ressemble beaucoup à celui des médias français au lendemain du débat télévisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Débat qui a rapidement viré à la foire d'empoigne. Marine Le Pen a lâché ses coups contre Emmanuel Macron dès les premières minutes. Avec une acrimonie peu habituelle dans ce type d'exercice, elle a constamment renvoyé son adversaire au quinquennat de François Hollande, dont il serait l'héritier. Emmanuel Macron s'est efforcé quant à lui de rester calme avant de hausser le ton, lui aussi. Hein, vous dites des bêtises, lui a-t-il notamment asséné. Bêtise, c'est un terme que l'ancien ministre de l'économie a beaucoup employé hier soir à l'encontre de son adversaire. Selon un sondage Elab pour BFM TV, 63% des téléspectateurs ont jugé l'ancien ministre de l'économie plus convaincant que son adversaire du Front National. À gauche de la gauche, 66% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont également jugé Emmanuel Macron plus convaincant. Le monde de la culture est monté au front, c'est le cas de le dire, pour appeler à voter contre Marine Le Pen. C'était le cas mardi soir à la Philharmonie de Paris. Ce sera le cas ce soir, toujours à Paris, avec un concert Place de la République, lieu hautement symbolique, concert organisé par l'Union des étudiants juifs de France, la FAGE et SOS Racisme. Dans un communiqué commun, les trois organisations réaffirment leur attachement aux valeurs républicaines et à faire barrage à l'extrême droite. Au programme, entre autres, les Vampas, Camille Bazbaz, Tété, FFF, les rappeurs Mokobé et Passy ou encore Pete Doherty. Les Algériens sont appelés aux urnes ce jeudi pour des élections législatives. Le pouvoir espère renforcer sa légitimité, ce qui est loin d'être gagné, hein, puisqu'on attend un faible taux de participation. Toujours rien au palais de Buckingham, la résidence de la reine Elisabeth II. Des journalistes sont sur place dans l'attente d'une annonce violence imminente après avoir eu écho d'une réunion inhabituelle. Pour le moment, aucune explication officielle n'a été fournie. On sait juste que les domestiques des résidences royales de partout au Royaume-Uni ont été rappelés à Londres. La reine Elisabeth et le prince Philippe sont respectivement âgés de 91 et 95 ans. Il y a quelques jours, Monaco avait laissé filer sa demi-finale de Coupe de France contre le PSG en alignant une équipe bis. Objectif, se préserver pour la Ligue des Champions. En définitive, c'est raté, hein, puisque Monaco s'est incliné 2-0 hier soir à domicile face à la Juventus de Turin. En demi-finale aller de la Ligue des Champions, les Modégasques ont fait face à des Italiens cruellement efficaces et la Juve et le Real sont donc, ont donc un pied en finale. Et puis décidément, ce mercredi n'était vraiment pas le jour des clubs français puisque Lyon n'a pas fait mieux en Europa League. Les Lyonnais se sont inclinés 4-1 sur le terrain de l'Ajax Amsterdam. Là aussi, c'était une demi-finale aller de la compétition.
Et salut les mecs !
Ouais, ouais.
C'est
chouette.
T'as vu, j'ai essayé de créer des trucs bizarres dans l'émission.
Oui, de délocaliser
marche,
un peu.
Ça marche. Une petite chorale là. Oui. Dis-moi, on fait la météo de Thierry.
On a retrouvé le mec qui jouait dans les choristes, tu sais, il a grandi.
Oui.
Il s'appelle Thierry, il est là. Oui. Alors Thierry, tu connais Gérard Jugnot? Il est sympa. Il y a une météo, non?
La météo.
Lola et Lola et Lola. Lola et Lola et Lola et Lola. Sainte-Sylvain, Sainte-Sylvaine, les Silouanes, les Sylvains. Aujourd'hui, les températures seront à Angers de 8 à 19, à Avignon de 7 à 19, à Bordeaux de 11 à 22, à Brest de 9 à 17, à Évreux de 6 à 18, à Marseille de 8 à 18, Montpellier de 11 à 17, à Paris de 8 à 18, à Reims de 6 à 17, à Saint-Étienne de 3 à 15. Lola et Lola et Lola. Lola et Lola et Lola et Lola et Lola.
Ce soir dans votre ville, taureau piscine, face au supermarché U à côté de la mairie, taureau piscine, les machettes tombent dans l'eau, on rigole avec monsieur le maire qui se prend pas au sérieux, taureau piscine, face à l'hypermarché U qu'on se le dise, allez, merci Tito, payé par le comité des fêtes de la mairie avec l'argent des socialo-communistes.
Hey, les chauffures Martinez, anciennement rue Générale.
Oui, ah, c'est fermé maintenant. Allez, on part dans la rue.
Il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout. La vie est très belle. Non, non, non.
Dis donc, c'est un cache-misère. C'est quand vous avez personne que vous dites ça.
Ben non, je suis avec moi-même. Ouais, ah. Y a personne. Et en fait, j'avais l'air un peu ridicule quand il y a quelqu'un qui était en train de courir et je lui ai dit, vous êtes pressé. Je oui. Me suis dit, vraiment, c'est un peu con.
Et quand quelqu'un, quelqu'un est assis, vous dites, vous êtes fatigué?
Oui, ou quelqu'un qui dort, on lui dit, tu dors.
Et quand quelqu'un est mort, vous dites, ça va pas bien, toi.
Bah oui, oui. Ouais. Donc voilà, je me suis senti un peu ridicule. Je croise cette femme avec une belle écharpe multicolore. J'arrive à Bastille parce que je voudrais voir le live, en fait.
Le live?
Le live de tout à l'heure.
Ah bah oui, vous voulez dire que vous rapprochez de la radio?
Oui. Parce que je me rapproche de la radio parce que j'aime beaucoup cet artiste que j'ai croisé de nombreuses fois sur la ligne 2 du métro.
En effet, c'est là où les gens l'ont découvert. Vous passez-nous, je veux entendre, passez-nous quand même des gens dans la rue un peu au hasard.
Bah alors là, il y a une dame avec une béquille, vous la voulez ou,
Oui.
Ouais. Bonjour madame, je vous arrête une seconde.
Oui, bonjour.
Bonjour, est-ce que cette béquille... Elle est quotidienne ou est-ce que c'est récent?
Quotidienne. Oui.
Vous allez dans quel coin, là?
Je vais prendre le bus.
Le 96?
Non, non, le 29.
Voilà. Il arrive dans 3 minutes.
Bon, ben, je vais le prendre.
Vous allez y arriver?
Oui, merci.
Salut.
C'est bien, moi j'ai voilà. Bien aimé ce moment de vie. J'ai bien aimé.
Un petit moment. Bon, là, il y a deux personnes devant moi, mais elles sont devant les téléphones portables. Ah, j'ai un sourire.
Oui.
Ça, un sourire, il faut pas le
rater. Non, un sourire, je peux vous dire, il faut s'y accrocher.
Ouais. Passe un petit casque.
Un sourire, une béquille, oui.
Si, allez-y, ça va vous faire du bien. Ça va?
Bonjour.
Bonjour madame, vous étiez en train d'appeler avec votre portable?
J'étais en train d'envoyer un message avec mon portable.
À qui?
À mon ami.
Ami au sens...
Quelqu'un ami
qui partage voilà. Votre vie, c'est l'ami, par exemple, quand vous l'avez présenté.
Voilà, petit ami.
Est-ce que vous l'avez présenté à des gens de votre famille? Vous avez dit, bah, c'est l'ami, c'est...
C'est mon petit ami.
C'est mon
voilà.
Petit ami. Ah, ça peut devenir le grand ami plus tard. Pour le moment, c'est l'ami. J'ai un ami qui est mon ami en ce moment. On est ami. Et dites-moi, alors, cette amitié, c'est une amitié amoureuse, une amitié...
C'est une amitié amoureuse, tout à fait. Oui. Une grande amitié. Enfin, c'est même pas une amitié. C'est avec un grand A, on va dire amour.
Avec un grand I.
et un grand voilà. M. Et dites-moi, alors ça fait combien de temps cette histoire que ça dure, chère madame ?
Ça fait 3 ans.
3 ans, 3 ans d'amour-amitié, d'amour-vache, d'amour-passion, bien sûr. Je sais que vous avez pris des coups, vous en avez rendu. Il y a eu des couchers de soleil à Venise et puis il y a eu des levées à Bagnolet sous la pluie aussi. Dites-moi un petit peu, ce petit texto de ce matin, c'était quoi, chère madame ?
Le prix du café à Paris.
Voilà, voilà. Et c'est-à-dire, vous lui annonciez, vous lui demandiez le café qu'on consomme sur le comptoir ou le café à moudre chez soi ?
Alors, je vous réponds par une autre réponse, tout simplement, puisque dimanche, nous avons pris un café dans une enseigne américaine.
Et je me souviens.
Et j'étais interloquée du tarif, je me disais que ce n'était pas possible, que cet esprit-là. Il m'a dit, mais tu ne te rends pas compte, tu vas voir quand tu iras sur Paris, tu vas voir les prix. Et là, bingo, j'ai pris une photo d'une enseigne, enfin du tarif accroché à l'extérieur. Voilà.
On peut parler de Starbucks, cette maison qui a une théorie pour contrôler
non,
la planète.
Une autre enseigne.
Une autre enseigne,
mais du même type, du même pays.
Donc, cet ami, vous lui envoyez des photos des tarifs de café à 8h30 du matin.
Ouais, c'est ça.
Il était à combien ce café qui vous a mis en colère ?
Dimanche ou là ?
Non, là.
Là, non, il ne m'a pas mis en colère. Il était moins cher que ce que nous avions eu.
Envoyer les tarifs.
Chez une enseigne avec un grand M jaune. Voilà.
Le café, oui, McDonald's, oui. Voilà. Deux morceaux de pain, café au milieu. Mais dites-moi, il est à combien le café, là, madame ?
À 3,50 €.
Mais non.
Mais non.
Mais pas à 3,50 €.
Il est à 30 au comptoir.
Texto, en train de me montrer le texto. Ah, j'ai votre code de iPhone en même temps.
Bah, il est à 1,10, 1,20 le café.
30, ouais, au comptoir.
Non, c'est pas un 10-20. Non, c'est un expresso de l'avenue Beaumarchais.
Non, mais c'est peut-être parce qu'il est servi par Ronnie McDonald lui-même dans ces cas-là. Il a dit bonjour les enfants, c'est Ronnie McDonald.
C'est en face.
Ah oui, non, mais on va aller l'engueuler, le café. C'est quel café ?
C'est quel café ? C'était là-bas, là, dans la petite rue à droite.
Bon, allez régler cette affaire avec Jacques Souvent.
Je vous l'offre le café.
Voilà.
La Miami m'offre du café dans une enseigne customisée. Ronnie McDonaldisé, ce vieux clown désenchanté, apporte, industrialisé, monopolisé, standardisé, un pseudo-café qui ne nous fait plus d'effet. Allez, vas-y, rentre là-dedans, fous la merde, fous des cafés sur la gueule, prends le plastique, mords-le.
Voilà. Que j'aime ta couleur café.
Ça va beaucoup mieux, à tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi.
Nova. 7h, 9h, Edouard Baird. Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
Très élégant dans sa veste et sa chemise bleue qui ne sont pas sans rappeler ses yeux. Olivier Guez, écrivain, journaliste, est avec nous ce matin. Et ça n'est pas rien, cher Thomas Baumgartner.
Ce n'est pas rien, Olivier Guez, qui endosse ces temps-ci l'habit un peu rêvé comme ça de l'écrivain, journaliste, voyageur qui publie dans Le Point depuis 2 mois une série en cours, non, qui commence même à peine, une série d'articles, de longs articles... De voyages et de rencontres en fait auprès des Européens, mais des Européens, pas de Bruxelles, pas de la structure européenne, mais Olivier Guez, des gens qui font l'Europe et qui vivent en Europe. Vous êtes allé en Pologne, vous êtes allé à Lisbonne, vous revenez là de Roumanie, de Hongrie, vous étiez à Vienne en Autriche. C'est ça quoi, c'est une série un peu rêvée, faut le dire quand même pour qui écrit un peu, journaliste et voyageur.
Vous faites vos humanités.
Absolument, Edouard. Oui, j'ai une chance immense, j'en conviens. L'idée de cette série est de raconter l'Europe telle qu'elle est, pas telle qu'elle est fantasmée par une partie des élites politiques françaises, et de partir vraiment à la rencontre des Européens. Alors évidemment, je ne peux pas rencontrer tous les Européens, je n'ai pas accès à tous les Européens, mais c'est vraiment de raconter ce qui se passe dans ces pays européens, le regard qu'ils portent aussi sur la France, parce que systématiquement, on me parle de la France. Et c'est finalement de donner de la chair à un continent qui est incroyablement riche et qu'on réduit très souvent à des bureaucrates de Bruxelles, alors que l'Europe, en fait, évidemment, est extraordinairement riche, je viens de le dire, et qu'il y a quelque chose finalement d'assez touchant. Le continent est vraiment en train de vivre des années charnières. tout le monde le sent, on le voit dans cette élection. En Europe de l'Est, il y a la menace russe. Systématiquement, on me parle des Russes. Le Portugal sort d'une crise immense. Et finalement, on parle assez peu de toutes ces choses-là. Ou en tout cas, on a toujours un regard très français sur ce qui se passe ailleurs. Donc,
l'idée est
de raconter cette Europe en mouvement.
Non, parce qu'on a l'impression maintenant qu'on traite toute une partie de l'Europe, justement, cette ancienne Europe de l'Est, un peu comme on a toujours traité l'Afrique dans les journaux ou la télévision, c'est en termes de catastrophes, de menaces, de misère. Alors que vous êtes allé donc en Roumanie, en Hongrie, vous avez vu une autre Europe de l'Est.
Oui, je suis notamment la jeunesse. Déjà, l'Europe de l'Est, c'est un terme très français, parce que c'est vraiment, ça date de l'époque soviétique. Donc on imagine un demi-continent tout gris avec des usines qui polluent. Évidemment, c'est plus ça du tout, c'est l'Europe centrale et l'Europe orientale, et les deux sont encore très différentes. Et il y a une jeunesse extraordinaire, c'est une jeunesse voilà, qui a été modelée par la chute du mur, qui a eu la chance de pouvoir voyager aussi, soit de travailler, soit d'étudier à l'étranger, et qui se sent pleinement européenne, et peut-être plus européenne d'ailleurs que notre propre jeunesse, quand je vois les résultats des dernières, en tout cas du premier tour de l'élection présidentielle.
Quand vous êtes allé à Lisbonne, donc, comme vous dites, évidemment, on vous parle de la France aussi, et il y a quelqu'un qui vous dit, vous êtes si nombriliste et pessimiste en France que vous croyez que tous les Européens vous ressemblent. Ça aussi, c'est l'objet de ce projet, de votre projet, c'est de battre ça en brèche. Ici, donc, au Portugal, même au plus fort de la crise, nous sommes restés pro-européens. On remet aussi en cause nos propres repères en faisant un voyage comme ça.
Ah, mais complètement. Cela dit, moi, ça... Enfin... J'ai une histoire très particulière avec l'Europe, c'est que j'ai eu la chance de grandir à Strasbourg dans les années 80. Et dans les années 80, Strasbourg est une ville incroyablement européenne. C'est-à-dire que j'ai vu au fur et à mesure les parlements européens arriver, le Conseil de l'Europe, la Cour de justice européenne. Et c'est quelque chose qui m'a incroyablement marqué. Moi, je me souviens, je sais pas, je devais avoir 10 ans lorsque Reagan est venu célébrer les 40 ans de la Seconde Guerre mondiale. Kohl, Mitterrand, tout ça, c'est des choses qui m'ont incroyablement marqué. Et pour moi, c'est la continuation, finalement, de toute une histoire. Et je ne sais pas ce qui s'est passé en France. On a complètement perdu cette dimension. L'Europe vit en paix depuis plus de 70 ans. C'est une chose incroyable. C'est jamais arrivé, en fait, bon, à part les guerres en ex-Yougoslavie. Et on ne célèbre pas cette chose. On a l'impression que c'est quelque chose d'inné, que l'Europe a toujours été en paix, que les Européens ne se sont jamais fait la guerre. Alors qu'on vit dans un continent en paix, il y a certainement des choses à changer, mais on peut le changer d'une manière à peu près civilisée. Et là, on a l'impression qu'on a envie de donner un immense coup de pied dans cette fourmilière, ce qui est totalement inconscient.
Est-ce que c'est pas le paradoxe de sa propre réussite, en fait? L'Europe est tellement bien réussie qu'on a l'impression que de tout temps, tout s'est bien passé et que finalement, il y a une forme de quelque chose de naturel dans quelque chose qui est finalement construit et voulu profondément.
Quelque part, il y a l'ennui du quotidien, quoi. Et effectivement, on a un quotidien qui est heureusement relativement pacifié depuis des décennies. Mais par exemple, quand on va en Europe centrale et orientale, là, les gens se souviennent. Les gens se souviennent de ce qu'a été la dictature de Ceausescu. Les gens se souviennent de ce qu'a été l'occupation soviétique en Pologne. Les Portugais se souviennent de ce qu'a été la dictature jusqu'au milieu des années 70. Donc ces gens ont un rapport à l'histoire qui est très différent du nôtre, par exemple.
Comment vous voyagez? Quelles sont vos méthodes? Vous marchez beaucoup? Vous prenez beaucoup de contacts avant? Ou vous vous laissez un petit peu... Vous suivez le fil comme ça, au hasard?
Alors, en général, je pars en train. J'adore les trains. Alors, pour Lisbonne, c'est un peu compliqué parce que justement, tous les réseaux sont pas... Il faut 27 heures pour aller à Lisbonne. Donc là, j'ai quand même pris l'avion, j'avoue. Mais la plupart du temps, par exemple, lorsque j'étais en Roumanie, là, il y a 2-3 semaines, j'ai fait Bucarest-Cluj.
Je vois votre passe Interrail qui est là,
absolument,
qui permet de voyager.
Oui, parce que j'ai toujours moins de...
Que je recommande d'ailleurs aux jeunes
ans,
cet été. Oui.
Absolument. Donc là, c'est par exemple, c'est 11 heures de train à travers les Carpates et la Transylvanie. Donc c'est extraordinaire. Il n'y a pas un chat. C'est merveilleux. On croise des gens tout à fait improbables. Il y a des paysages et là, on comprend. Je pense que pour sentir un pays, c'est faire des sauts de puce en avion, ça n'a aucun sens. Mais comme je ne peux pas non plus rester 3 semaines, 1 mois dans chaque pays, le train est quelque part en accéléré. On voit un pays, on rencontre des gens. Je prends pas mal de rendez-vous avant. En tout cas, j'ai toute une liste de contacts. Et très souvent, en fait, ça marche par chaîne. Il y a par exemple l'un des personnages que je cite régulièrement dans le voyage portugais. C'est un ancien député européen qui s'appelle Rui Tavares. Et c'est Dani Cohn-Bendit que j'ai croisé à Berlin en février qui m'a donné ses coordonnées. Tout ça est une chaîne. Rui Tavares m'a parlé d'un universitaire à Budapest qui avait beaucoup travaillé sur Orban. Et tout ça, finalement, s'enchaîne.
Et le hasard? La part du hasard.
Et bien sûr. Et alors après, on me recommande des gens. Après, je peux croiser des gens. Après, il y a des gens qui me touchent. Par exemple, À Bucarest, j'ai vu un Roumain d'origine arménienne dont les parents étaient iraniens, parti au moment de la révolution bolchevique sur un bateau de Constantinople. Et ce type m'a incroyablement touché. C'est un espèce de conteur oriental qui mélange 3-4 langues, c'est-à-dire des gens qu'on ne croise jamais, et qui n'avait pas un propos extrêmement pointu sur la politique roumaine, mais voilà, c'était un personnage comme on ne croise jamais, et qui m'a, quelque part, est assez bouleversant, parce qu'il est, finalement, il est le représentant d'une Europe qu'on ne connaît plus ici, et d'une certaine manière, d'une Europe cosmopolite qui est un peu en train de disparaître.
C'est une histoire de regard, en fait, l'Europe. Vous orientez notre regard de lecteur dans le point, à peu près une fois par mois, dans ces articles, Olivier Guez.
J'essaye de faire passer ce que je ressens, ce qui est ma propre conscience européenne, ce qui ne m'empêche pas d'adorer la France ou de détester la France sur certains points, mais comme les autres pays, on a la chance de vivre dans un ensemble à la fois politique, culturel, économique, qui est d'une richesse hallucinante, qui est incroyablement complexe, et qu'on réduit très souvent à 2-3 phrases qui sont absolument ridicules et qui sont extrêmement dangereuses, je trouve.
Donnez-nous une idée, là, comme ça, une ville ou une région auxquelles on n'aurait jamais pensé, où on ne se serait jamais imaginé aller, où on pourrait aller se balader, là, en Europe.
C'est une bonne question. Peut-être la Transylvanie. La Transylvanie, qui est une espèce de nom mythique.
Ben oui, alors on pense à Dracula, c'est ça, c'est en Roumanie.
Voilà, c'est en Roumanie.
Sur des montagnes, c'est quoi?
Alors il y a moitié montagne et moitié plaine. Mais il y a des collines aussi.
On atterrit où? C'est Vajna, non? C'est quoi la ville où on
va? On va en train, on a dit.
Oui, mais où on s'arrête, parce que moi j'ai...
On descend. Alors, où soit on... Alors, il y a plein de... En fait, la Transylvanie en allemand s'appelle Siebenbürgen. C'est-à-dire qu'il y a 7 villes, ouais, au départ, qui ont été créées soit par des Hongrois, soit par des Allemands. Et donc vous avez 7 villes magnifiques. Je ne les connais pas tous.
Alors j'arrive à quelle gare, là, Olivier Guez?
Peut-être à Timișoara.
Voilà,
Timișoara.
Le fameux charnier Timișoara.
Exactement. Alors, oui, Timișoara, on pense tout de suite, oui, la révolution roumaine de 1989. On imagine là aussi que c'est gris et affreux, alors qu'en fait, c'est une ville à la fois d'Europe centrale et très orientale aussi. On sent vraiment les Balkans, presque la Turquie. Et c'est sublime. C'est baroque, c'est gothique, c'est...
Timișoara, 2 minutes d'arrêt.
Commence Timișoara, exactement. Et on part, exactement.
Voyage d'un Européen, c'est signé Olivier Guez régulièrement dans Le Point. Et ça va continuer. Merci beaucoup.
Absolument. Merci beaucoup.
Ben c'est en route.
7h-9h, Edouard Baird. Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Je suis dans le Café Nova avec Rudy.
Salut, Edouard.
Bonjour, il y a beaucoup de monde ce matin.
Non, faisons ambiance, concert rock, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de monde ce matin.
C'est tout ce que j'aime. Qui est avec nous ce matin, Rudy?
Mohamed Lamouri, Edouard. Et si nous prenions le temps un instant si luxueux d'arrêter de regarder nos pompes, d'arrêter de nous focaliser sur nos propres problèmes, d'abandonner nos égos quelques minutes, le temps de relever la tête et de regarder en face de nous, en face de vous. Tous les matins, il y a des musiciens qui jouent dans le métro. Ils jouent pour l'amour de la musique, ils jouent pour pouvoir manger, ils jouent pour ne pas avoir froid, ils jouent pour sublimer un wagon en salle de concert, ils jouent. Allez savoir pourquoi ils jouent là. Parmi ces artistes qui tentent de vous faire sourire, rire, de vous émouvoir, de vous faire relever la tête, de regarder l'autre, il y a Mohamed Lamouri, Momo pour les intimes. Mohamed Lamouri est un jeune homme algérien de Tlemcen qui joue, qui chante l'amour sous terre, ligne 2 à Paris, mais pas que, depuis maintenant près de 13 ans. Vous êtes très nombreux à l'avoir croisé, vous êtes très nombreux à nous avoir envoyé des messages hier pour nous dire combien Mohamed vous a ému un jour ou l'autre dans le métro. Il est là avec nous ce matin. Depuis peu, sa musique s'écoute et s'achète en ligne sur le site du super label La Souterraine. C'est une vedette parmi les invisibles. Il sera en concert le 13 mai prochain au Beau Festival à Paris, le 16 juin au Festival Latitude à Lille. Il est juste à côté de toi,
Edouard.
Je suis
en duplex avec Mohamed Lamouri à 4 mètres de vous, la Rudy. Mohamed, racontez juste le début quand tout à coup vous avez dit « Allez, je me lance, j'y vais, je chante dans le métro ». C'était quand ?
Bah écoute, j'ai décidé... Bonjour d'abord.
Bonjour, bien entendu, je crois, dans un premier temps, Rudy.
Bah écoute, j'ai décidé pour faire la musique dans le métro, parce que si on n'est pas commencé la musique dans le métro, peut-être je pense qu'on n'était pas très connu ici en France. Parce que, puis voilà, parce que grâce à la musique qu'on a fait un petit peu partout de les lignes de toutes les réseaux des métros. Et voilà, donc j'espère qu'on est très connus, puis c'est très bien, ça fait plaisir, quoi.
C'est pas la guerre dans le métro, les gens, il n'y a pas d'autres qui veulent chanter, les gens se respectent les uns les autres, les artistes qui jouent.
Bah écoute, ça va, mais par contre, les artistes, c'est bien parce que ça va, il y a le respect entre les artistes, quoi.
C'est pas la guerre, alors tu me le jures, tu n'as pas dû envoyer des coups dans la gueule.
Non.
Alors c'est très étonnant parce que tu as ton instrument sur l'épaule.
Bah écoute, je sais pas comment ça m'est arrivé cette idée, hein, que j'ai porté l'instrument sur l'épaule comme ça, comme le violon, quoi.
Oui, c'est vrai, il joue de son clavier comme un violon, un clavier sur l'épaule.
Qui est tout rafistolé,
c'est du scotch.
Oui, c'est pour le scotch, puis voilà, je n'ai celui-là parce que j'en ai un autre comme celui-là, et j'ai un autre différent.
Lequel est le plus scotché, celui-là?
Celui-là qui est le plus scotché, mais les autres, ils sont tout neufs.
Oui, celui-là, il est fatigué.
Mais il préfère celui-là. Alors... Mohamed Lamouri va nous interpréter un morceau que vous entendez assez souvent sur Nova depuis maintenant quelques temps, qui s'appelle Tagul Mahaft, qui est une reprise du grand Chebasni. Traduction à peu près littérale, tu me connais pas, je te connais pas, ça parle évidemment d'amour. Mohamed, merci d'être là, c'est à toi.
Merci.
Mohamed Lamouri, ici, c'est dans le Café Nova. Merci. L'émission se termine. Mardi prochain, on aura un nouveau président. Et quoi qu'il arrive, on sera là. Salut.
Édouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.